Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Vous êtes à l'écoute de l'émission On en jase, votre émission d'actualité, où on vous parle des dossiers chauds de la ville de Québec et de ce qui vous touche. On va voir Sylvain Junot tout à l'heure aux alentours de 13h, maire de Saint-Augustin-de-Desmaures en entrevue. La guerre est finalement prise entre lui et Bruno Marchand, même si Sylvain Junot nous disait depuis plusieurs semaines, voire mois, « Non, j'ai rien contre M. Marchand. » Mais il écrivait des petites lettres comme ça sur les taxes au vidange, sur la coupe d'arbre du tramway, mais il n'y avait rien contre Bruno Marchand.
C'est un peu passif-agressif, hein? Ouais. On sent comme une petite tension, là, mais on nomme pas tout à fait les noms pendant un bout de temps, mais là, ça y est.
Exactement. Ben là, Bruno Marchand, il a qualifié le maire Junot d'apôtre de l'inertie.
Je sais pas si tu t'en souviens, on avait eu, pendant les élections municipales, M. Junot en entrevue, puis on avait posé la question, c'est quoi votre relation avec la Ville de Québec? C'est encore Bruno Marchand qui est à la tête. Quel sera un peu votre angle d'attaque ou de collaboration? Tout est beau, c'est correct. Nous autres, on fait nos affaires. Eux autres, ils font leurs affaires. Oups, ça a chiré un peu.
Ah oui, ça l'a chiré. Puis dans Marceau le matin, l'autre matin également, on avait parlé de la taxe sur les poubelles avec Sylvain Junot. D'ailleurs, je vais y faire jouer un petit extrait de Guillaume Tremblay, président de l'UMQ, qu'on a eu en entrevue jeudi dernier. D'après moi, il va sursauter le maire Junot.
Oui, on sent un mouvement dans le milieu municipal en ce moment pour des grands changements, hein, dans la manière de gérer les villes. Parce qu'il y a comme un mur financier dans lequel s'en vont les municipalités. Puis, je pense que c'est pas banal que M. Marchand dise « apôtre de l'inertie ». Je pense pas qu'il parle juste d'un dossier. Je pense qu'on essaie en ce moment comme de brasser la cage. En tout cas, vous en jaserez avec lui, voir s'il est d'accord avec ça.
C'était à qui qu'on parlait la semaine passée? C'était pas à
Guillaume Tremblay, président de l'UMQ.
Exact. Puis lui, il disait, c'est ça, nous, on fait plus de surplus, là, en tant que municipalité, puis on se fait mettre dans notre cour des dossiers qui nous appartenaient pas. Mm-hmm. Puis on a posé la question, faudrait-tu redéfinir les tâches au niveau municipal, provincial et fédéral, les réécrire, les remettre dans le bain, puis il a dit oui. Hey, je pense
absolument.
Que c'est ça le point.
Mais il le demande, mais l'autre défi, parce que c'est sûr qu'il y a avec le palier provincial, mais il y a aussi les plus grosses municipalités, tu sais, les pôles régionaux versus les plus petites municipalités autour. Tu sais, quand il y a une infrastructure ou des services dans le pôle régional, bien, c'est sûr que les municipalités autour en profitent. Donc, comment on partage ces coûts-là? Comment on partage les désagréments de certains projets?
En effet.
Donc, tout ça, c'est très, très, très compliqué. Puis, il y en a beaucoup de municipalités au Québec, faut le dire.
Oui, il y en a beaucoup. Peut-être un petit peu trop, malgré le fait qu'on a fait les fusions.
Je suis d'accord.
Il y a de cela à peu près 25 ans. Également, on va parler sur la scène provinciale du bras de fer entre des spécialistes et Santé Québec et le gouvernement. Donc, c'est Marc Ranger, notre spécialiste en relations syndicales, qui va être avec nous aux alentours de 12h50. On passera pas à côté du dossier local de la fin de semaine, la quai de chemin. Un parent qui a sauté sur un arbitre, après le match d'un match junior D. C'est la pire catégorie du junior, là. T'sais, les gars sont là. Au lieu d'aller jouer dans une ligue de bière avec des adultes de 40 ans, ils jouent là et sont coachés par des bénévoles comme moi, mettons.
Ah. Je suis contente que tu fasses de la pédagogie avec moi, parce que j'avais aucune idée, effectivement.
Puis là, il y a un parent qui a décidé de péter les plombs après un arbitre, blessure à l'arbitre. Donc, on va jaser de ça avec Mathias Turcotte tout à l'heure. Et à l'international, on va parler évidemment de Donald Trump, du coût de l'essence dans le caucus dans quelques instants avec Antonine. Et Pascal, tu nous as préparé un dossier également par rapport à des navires qui sont pris à l'heure actuelle pour le détroit d'Ormuz. Donc, d'Ormuz, je me trompe tout le temps.
Oui, le détroit d'Ormuz qui tente d'être déparalysé ce matin. On aurait laissé les cargos, en fait, de l'Iran recommencer à circuler. Mais il y en a des cargos québécois qui font de la commercialisation là-bas. Puis on avait parlé à l'entreprise québécoise il y a quelques semaines. Je leur ai reparlé ce matin pour savoir on en est où avec ça.
Magnifique. Mais avant tout ça, Pascal, qu'est-ce qu'on suit en manchette aujourd'hui?
On a évoqué la tension forte entre le maire de Québec et son homologue, le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, M. Junot. On en reparlera plus tard alors, puisqu'on a fait un petit tour de ça d'entrée de jeu. Je vais vous parler de la garderie de Laval, Pierre-Ny-Saint-Amand, qui est déclaré accusé à haut risque. C'est celui qui a tué deux enfants en fonçant à toute vitesse dans une garderie en 2023. Avec l'autobus scolaire, il a été jugé par le tribunal. Le verdict a été prononcé ce matin. On a souligné la nature si brutale des gestes de l'accusé et la probabilité marquée d'une récidive. Je vous rappelle qu'en avril 2025, il avait été jugé aussi non criminellement responsable de ses gestes en raison de troubles mentaux. On le qualifiait au moment de ses gestes en psychose et Ny-Saint-Amand est toujours détenu à l'Institut de psychiatrie légale Philippe Pinel. La vidéo circule beaucoup, t'en as parlé sur les réseaux sociaux. Il y a un arbitre qui a été exposé. Il aurait été agressé par un parent après un match de hockey junior D disputé samedi à la quai de chemin. On peut voir les arbitres qui quittent la patinoire avant qu'un homme pousse assez violemment l'un d'eux et une altercation entre les deux autres arbitres qui s'en est suivie. L'homme qui a attaqué les arbitres a par la suite été arrêté pour voie de fait avant d'être libéré sous promesse de comparaître. Des parents de la région se disent inquiets après qu'un éducateur de la petite enfance, Christopher Bouchard, ait possiblement violé à une douzaine de reprises une ordonnance qui lui interdisait de travailler auprès d'enfants. C'est le Journal de Québec qui rapporte que depuis septembre 2025, l'homme de 23 ans n'avait pas le droit d'occuper un emploi qu'il plaçait en situation d'autorité auprès de mineurs de moins de 16 ans ni d'offrir des services de gardiennage en raison d'incidents survenus à Donnacona. Et la patinoire de Scott en Beauce a été nommée gagnante provinciale et territoriale du Québec dans le cadre de Craft Hockeyville 2026. C'est une reconnaissance qui souligne le rôle central de cette patinoire-là dans la vie de la communauté.
Pour nous joindre, 418-971-1021, le numéro par texto, 418-780-1021, si vous désirez nous appeler. BLVD.fm, web radio, et également les meilleurs moments de l'émission qui s'y retrouvent après chaque jour. BLVD 102.1, App Store, Google Play Store, c'est justement l'application à télécharger pour pouvoir nous écouter partout. Twitch.tv/BLVD/FM pour venir nous voir. Au parleur intelligent, vous dites écoutez BLVD. Et si vous faites ça, ben comme moi, hier en plein ménage, dimanche, j'entendais l'excellent Colosse et l'excellente musique de Boulevard. Et abonnez-vous à notre page YouTube parce que le caucus s'y retrouve chaque jour.
Le caucus. Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le Caucus avec Antonin Iaccarini du lundi au jeudi de midi à 12h30. Anto, passez une belle fin de semaine.
Oui, très relax.
Cool. Prête pour une grosse semaine de budget provincial?
Ben, c'est un peu ça. Là. Ça va encore être une gigantesque semaine politique.
Oh, que oui. Et parlant de politique et de gigantesque, Donald Trump et les États-Unis, le conflit en Iran. Donald a décidé d'y aller tout seul avec ses amis israéliens. Il a bombardé l'Iran. Le détroit d'Hormuz est présentement bloqué. Puis là, ben Donald, il dit « Voyons, la France, qu'est-ce que vous faites? Hey, Royaume-Uni, vous êtes où? L'OTAN, qu'est-ce qui se passe avec vous autres, gang d'incapables? »
Ben c'est ça. Donc, l'argument de M. Trump, c'est de dire que tout le monde est affecté par la fermeture du détroit d'Hormuz. D'ailleurs, Pascal, tu en parlais il y a un instant, il y a des bateaux qui se retrouvent coincés. Puis on avait, la semaine passée, vous aviez en entrevue même des bateaux de dégagnés là, de Québec qui étaient pris dans la région. Donc, on voit que ça touche tout le monde. Ça a un impact sur les chaînes d'approvisionnement. Un cinquième du pétrole mondial transite par le détroit d'Hormuz. Donc, c'est certain que l'argument de M. Trump, c'est de dire, ça vous concerne. Si vous voulez qu'on débloque le détroit d'Hormuz, bien, venez avec moi, venez m'aider dans cette guerre pour laquelle je ne vous ai pas vraiment demandé votre avis avant de déclencher.
Exactement. Clairement que ça nous concerne. On a vu le prix à la pompe augmenter, justement, jusqu'à 1,88,9 à Montréal. Mais d'un autre côté, c'est Donald qui a mis la pagaille, là. Puis là, tu sais, je le répète, là, jamais je vais venir défendre le système dictatorial que tuait des centaines de milliers de citoyens en Iran. Mais Donald a mis la pagaille. Une fois que la pagaille est prise et qu'il n'est pas capable de la régler, là, il se tourne vers les alliés à qui il n'a même pas demandé. C'est une bonne idée d'y aller ou non?
Bien, c'est ça. Donc, l'OTAN, il faut le rappeler, c'est une entente qui existe, une alliance militaire qui a émergé après la Deuxième Guerre mondiale et qui prévoit que si un des membres est attaqué, tous les membres doivent le défendre. Le problème ici, là, c'est que l'Iran n'a pas attaqué aucun membre de l'OTAN. Okay? Si on fait la comparaison avec ce qui s'est passé en Afghanistan au début des années 2000, pourquoi le Canada, pourquoi l'Angleterre, pourquoi les Finlandais, pourquoi les Norvégiens sont allés se battre en Afghanistan? C'est parce que les États-Unis avaient été attaqués sur leur territoire.
Oui.
Les attentats du 11 septembre 2001. Donc, cette fois-ci, c'est complètement différent. C'est comme en Irak. C'est la même situation ou à peu près. On a un régime dictatorial, ça crée toutes sortes de disruptions dans la région, ça a des impacts. Il n'y a personne qui appuie ce régime-là. C'est la même chose en Iran. Là. On n'est pas là à défendre en disant qu'on aime ça, là, ce régime dictatorial de l'Iran. Mais l'Iran n'a pas attaqué directement un membre de l'OTAN. L'Iran finance du terrorisme qui est très dommageable pour Israël. Après ça, ben, je suis désolée de vous annoncer, Israël ne fait pas partie de l'OTAN, à ma connaissance. Donc, M. Trump a décidé d'y aller tout seul. Parce que la différence avec l'Irak, c'est que quand M. Bush voulait aller en Irak, ben, il a essayé quand même de convaincre la communauté internationale. Il a essayé d'aller chercher de l'adhésion. Ça a plus ou moins fonctionné. Il y en a qui ont dit oui, il y en a qui ont dit non.
Comme le Canada dit non à l'époque avec Jean Chrétien.
La France a dit non. Le Royaume-Uni a dit oui.
Ils l'ont regretté.
Ils l'ont regretté, mais ça, c'est une autre histoire.
C'est ça.
Cela dit, là,
non, mais
personne n'a demandé l'avis de personne.
Je trouvais ça important de refaire l'histoire de l'Irak parce que ça vient expliquer pourquoi le Royaume-Uni n'a pas remis deux pieds dans l'Iran.
Ben, c'est ça, parce qu'ils ont appris les leçons du passé. Puis, tu sais, des fois, il y a des raisons politiques ponctuelles qui font en sorte qu'un pays va décider ou non. Tu sais, par exemple, si tu as dit non à autre chose, tu sais, les États-Unis, c'est un énorme, c'est un énorme joueur. Donc, dire non aux États-Unis, c'est pas facile à la base, là, on le sait. Là. On a vu M. Carney de notre côté qui soufflait un peu le chaud et le froid. C'est pas... On a dit oui à participer à un Golden Dome, mais là, on dit non pour d'autres. Tu sais, on essaye un peu de mesurer nos confrontations avec les États-Unis. Donc, c'est vraiment pas évident. Mais dans ce cas-ci, en Iran, M. Trump a décidé d'agir seul. Est-ce qu'on va apprendre, par contre, plus tard? Moi, je n'exclus pas complètement qu'on savait certaines choses, parce qu'on a un petit manque de transparence de la part d'Ottawa en ce moment. Mm-hmm. Est-ce qu'on va apprendre qu'on était au courant? Puis qu'il y a pas, t'sais... Ça, c'est possible aussi. Il y a quand même un partage de renseignements qui se fait entre les pays, même si depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, c'est moins prolifique, ce partage d'intelligence et de renseignements entre les pays, dont le Canada et les États-Unis. Mais reste qu'on n'a pas été consulté et que là, on est devant un résultat puis on nous dit, ben venez ramasser
venez ramasser le pot cassé, c'est ça. Admettons que le Canada avait été informé à l'avance. Le gouvernement piloté par Mark Carney risque quoi s'il le savait puis il n'a rien fait dans la stratosphère publique?
Ben en fait, c'est que le Canada n'aurait pas été dédouané de rendre publiques des informations hautement sensibles et stratégique. Parce que, évidemment, si tu commences un débat au Canada puis que ça fait en sorte que ça brise l'effet de surprise d'une opération militaire d'un allié, je pense pas que le Canada aurait nécessairement... Par contre, une fois que l'opération est lancée, s'il avait été avisé d'avance, ça, c'est une information importante à transmettre aux Canadiens par la suite. En disant, oui, bon, il se passait en Iran, je veux juste dire à mes concitoyens canadiens que nous avons été informés de la chose gracieusement, nanana. Mais si on n'a rien dit depuis tout ce temps-là, puis là, je suis beaucoup dans les si. Peut-être qu'ils ne savaient pas pantoute. On ne le sait pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'on se garde une petite porte ouverte pour ça, parce que je ne sais pas si... Et ma prétention, c'est que je crois que les États-Unis n'ont pas avisé. Ils voulaient faire un effet de surprise, un gros boom. On a l'impression aussi que M. Trump a un peu sous-estimé l'ampleur de la tâche. Parce que l'Iran, bien qu'il n'a pas du tout la même puissance que les États-Unis ou qu'Israël, peut durer longtemps.
Ben, ils vont se battre. Ils vont se battre en mort, les gars.
Ben, c'est ça. C'est comme l'Ukraine face à la Russie. Hein. Il y a des gens qui pensaient qu'en 3 mois, ce serait réglé, puis c'est pas encore réglé. Là.
Beaucoup d'égo là-dedans. T'sais, on veut montrer qu'on est une puissance, même si on n'a pas tous les outils derrière nous, ben, au moins en se tenant debout, en étant résilient. C'est comme un genre de jeu de miroir, en fait, en ce moment.
Puis qu'est-ce qu'il y a de plus important que de préserver? T'sais, je veux dire, ils n'ont rien à perdre, à tout donner. Mm-hmm. Et ils ne s'embarrassent pas de démocratie, parce que ça, c'est un autre enjeu. Bon, les États-Unis, puis ça me permet vraiment de faire bien le lien avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est que quand tu es dans une démocratie, les opérations militaires, tu dois quand même rendre des comptes à tes citoyens, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays dans le monde, on s'entend. Et présentement, l'appui de M. Trump est en train de chuter de manière importante, surtout chez les jeunes républicains qui sont en désaccord avec des opérations militaires un peu partout dans le monde, qui sont très forts sur le America First, un mouvement qui est davantage isolationniste. Et là, voit en plus de l'argent qui est dépensé dans cette guerre-là à l'autre bout du monde, dans un pays qui souvent ne sont même pas capables d'identifier sur une carte, on va se dire la vérité. Mm-hmm. En plus, ils s'en vont remplir, tanker leur char et voient que ça leur coûte plus cher.
C'est justement là que je voulais aller. Bon, d'un, Donald Trump s'est fait élire sous promesse qu'il n'allait pas gérer le monde entier puis il est en train de faire ça avec l'Iran. Mais c'est surtout le prix à la pompe que je veux discuter parce que l'inflation est à 2,7% aux États-Unis. Trump a dit en 2027, on va réussir à la diminuer parce que, bon, il s'est fait élire en disant la classe moyenne
qui allait améliorer le sort des gens.
Bon pour vous.
Ben oui.
Mais là, on parle d'une inflation qui va monter entre 4 à 7% si le conflit perdure. Il est pas mal foutu. Puis en même temps, il ne peut pas retirer ses billes aujourd'hui parce que là, c'est Israël qui va se faire bombarder par l'Iran. Il est complètement prisonnier de sa propre décision.
Puis, effectivement, il y a le prix à la pompe qui est politiquement toujours très chaud aux États-Unis. Hein. C'est comme un droit inaliénable là, d'avoir du gaz pas cher là, dans la vie. Là. Tu vois personne qui réduit sa consommation, qui arrête de prendre son bateau puis son gros char.
Le gaz au fond, mon Léon!
C'est très politique, le gaz au fond. Et deuxièmement, le prix de l'essence a un impact sur tout le reste. C'est l'élément qui a le plus d'impact sur tous les prix à la consommation. Donc, pour M. Trump, c'est politiquement hyper inconfortable présentement. Il a beau essayer de déformer la réalité et de spinner ça dans tous les sens. Les chiffres sont têtus et le portefeuille des gens est têtu. Puis, vous savez, là, les élections, ça se passe régulièrement. En fait, ça se passe presque toujours sur la question suivante. Est-ce que ce parti-là ou ce président-là ou ce premier ministre-là a réussi à améliorer votre qualité de vie, améliorer votre vie pendant son mandat? Et là, il est en train de tout risquer pour une opération dans un pays qui, je pense, on aurait pu gérer autrement. Tu sais, l'Iran, là, c'est un pays contre lequel il y a eu beaucoup de sanctions. Il y a moyen aussi, tu sais, d'être un petit peu plus hypocrite, c'est-à-dire financer certaines choses, aider Israël d'une autre manière, mais on a décidé d'y aller à fond, là, puis de jouer les gros muscles, là, puis de faire une opération spectaculaire. Bien là, M. Trump est pogné avec ça dans une année d'élection de mi-mandat.
Tu penses quoi, toi, là-dedans? Il y a des gens qui disent bien, Israël aurait joué un peu de Donald Trump pour les faire embarquer dans cette puissance-là puis avec cette force-là.
Bien, à la fin de la journée, c'est M. Trump qui prend ses décisions. Je pense que la décision a été peut-être un peu impulsive de la part de M. Trump. Il n'exclut pas d'en faire d'autres. Il a parlé de Cuba il y a un petit moment. Il ne semble pas là, vouloir arrêter d'intervenir sur la scène internationale, puis d'intervenir de manière militaire, parce que ça, c'est une autre affaire. Les États-Unis ont eu le rôle de gendarme mondial depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais tu peux jouer ton rôle de gendarme de plein de manières. C'est-à-dire que quand tu crées de l'instabilité et des guerres à l'international, tu ne crées pas toujours un sentiment de sécurité ou tu ne crées pas de sécurité. Tu peux créer de l'insécurité. Ça peut provoquer du terrorisme. Ce qui se passe à Cuba, par exemple, ou en Haïti, ou des endroits qui sont proches là, des États-Unis, peut avoir un impact sur la sécurité des Américains. Et il y a des approches extrêmement différentes que de tasser un gouvernement et d'en mettre un autre. Ce n'est pas des approches qui ont porté beaucoup leurs fruits par le passé, si on s'intéresse un peu à l'histoire. Mais c'est trop... Ça, là, c'est de la finesse qui échappe à M. Trump.
Pour rappel, on est dans le caucus avec Antonine Iaccarini, caucus du lundi au jeudi de midi à 12h30 dans l'émission Nangeas sur Boulevard 102.1. Prix à la pompe, évidemment, ça a des répercussions ici, Antonine. Je te fais entendre ce que Christine Fréchette nous a proposé dans une entrevue vendredi pour l'émission On en jase concernant justement cette hausse de prix à la pompe et par le fait même la hausse de taxes sur l'essence perçue par le gouvernement du Québec.
Que les revenus supplémentaires qui seraient perçus par le gouvernement du fait de la hausse du prix de l'essence, donc la hausse des revenus de taxes, eh bien, ce serait retourné aux automobilistes sous la forme d'un rabais pour le coût des plaques d'immatriculation.
Bon, Bernard Drinville a dit « m'ordonner cette taxe, on ne sait pas comment ». Christine Fréchette dit « je vais le redonner sur l'immatriculation ». Tu sais comment je suis pour à 100% qu'on redonne de l'argent aux citoyens quand ils payent trop. Mais là, j'ai réfléchi à ça. Et tu me corriges si je me trompe. Je me suis dit, OK, moi, quand je vais aller mettre de l'essence dans ma voiture, le coût va augmenter. Donc là, j'ai pensé aux voitures du gouvernement.
Ben oui.
Aux camions du gouvernement. J'ai dit, eux autres aussi, ça va augmenter.
Ben les autobus aussi.
Ben oui, j'ai déjà travaillé au RTC. Quand le prix du gaz augmente, ben les dépenses augmentent.
Écoute, bravo d'avoir réfléchi plus loin que le bout de ta pompe.
Pas pire, hein? Fait que même si je crie au scandale, donnez-nous moins de taxes, le gouvernement va payer plus. Fait que la taxe qu'il va avoir en surplus va juste servir à éponger ce qu'il va avoir payé de plus. Je me trompe-tu? C'est trop simpliste, mon calcul?
Non, au contraire.
Mathématique?
Non, au contraire, tu vas plus loin que le simplisme électoraliste qu'on voit présentement. Parce que là, les deux candidats de la CAQ, évidemment, veulent se faire élire par les membres de la CAQ. On veut démontrer qu'on veut mettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois. Tout ça, c'est louable, OK? C'est correct.
Ben oui.
Mais après, là, quand on passe par-dessus ce qui est flash et ce qui est sexy comme annonce, tu te rends compte que finalement, c'est un peu boboche. Puis les deux propositions des deux candidats sont boboches. M. Drinville, lui, a parlé de remettre de l'argent peut-être sous forme de chèque. On allait renvoyer. En fait, on ne le sait pas. On ne sait pas qui va être remboursé pour ça. On ne sait pas combien. On ne sait pas combien qu'on a. Puis on ne sait pas sous quelle forme on va faire ça. Mais on sait qu'on trouve que l'essence coûte trop cher. Fort bien. Et du côté de Mme Fréchette, c'est par l'immatriculation. Mais là, je veux juste dire, il y a plusieurs problèmes. La première, c'est que c'est toute la chaîne d'approvisionnement qui va être affectée par le coût de l'essence. Fait qu'on peut bien là, regarder ce qui paraît, c'est-à-dire à la pompe, mais les gens vont être beaucoup plus affectés par le retour de l'inflation puis par les conséquences du blocage du détroit d'Hormuz que seulement l'essence. Donc, déjà, je trouve qu'on est un peu simpliste dans notre approche. Deuxièmement, tu le disais, Jeff, le gouvernement aussi a des dépenses supplémentaires dues à l'augmentation du prix de l'essence et, ultimement, à l'augmentation des prix de manière générale. Donc, on ne peut pas juste faire une soustraction ou une addition ici.
Ben non, parce que maintenant, on menace à plein. Voyons, c'est un déficit record encore. Oui, ouais. Mais là, c'est, on paye plus cher notre essence. À cet effet-là, Antonine, est-ce que c'est le PQ qui a la meilleure proposition avec Pascal Paradis qui dit « Écoutez, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de faire en sorte que la TVQ s'additionne sur les taxes. » On va la mettre au même niveau que les autres taxes. Ça va nous faire payer un peu moins cher à la pompe, puis je pense pas que ça ferait nécessairement... Ben, tout le gouvernement peut tenter de couper ailleurs pour justement venir faire ce bénéfice-là pour les citoyens.
Je suis bien ouverte à leur proposition. C'est juste que ça fonctionne si on comprend exactement. Si tu baisses un revenu ici, ben c'est quoi que tu coupes ailleurs? Moi, il n'y a pas de problème. Hein? C'est comme ça qu'on fait un budget à la fin de la journée. Autre élément avec ces propositions-là, c'est que les gens qui n'ont pas d'auto aussi paient pour l'augmentation de ces prix-là. Que tu prennes un autobus ou que tu achètes des aliments qui arrivent par camion. Tout le monde paie. Alors pourquoi, là, tout à coup, on racole juste les automobilistes? J'ai pas de problème, mais
c'est
besoin qu'on aille, en fait, des mesures pour faire face à l'inflation de manière plus générale, l'augmentation du prix de l'essence de façon plus globale. C'est juste que là, c'est plus compliqué, ça flash moins, ça fait moins des belles clips à télé. Je comprends. Finalement, je pense que ça va pas vous rendre plus riche. Parce que quand on coupe ces revenus-là, effectivement, pour une situation qui est ponctuelle, oui, qui pourrait durer un petit bout de temps, ça va être un bon choc pétrolier, on le sait. Mais là, on s'en va faire des mesures qu'il va falloir défaire peut-être après. Imagine le gouvernement poigné après pour remonter les prix.
Puis les coûts administratifs.
Tout ça pour que tu aies 3$ de plus dans tes poches. Puis là, je veux pas dire, tu sais, je comprends, là, les gens en arrachent.
Oui.
On est d'accord, OK?
Ah oui, vraiment, on arrache vraiment.
Il faut trouver des moyens pour les aider. C'est juste que je trouve qu'on est un peu dans la facilité puis dans le flashy, puis que la rigueur prend un peu part.
Il faut trouver des moyens à plus long terme. Je suis entièrement d'accord avec toi que d'y aller de promesses électoralistes de cette façon-là.
Mais les gens réagissent pas, puis ça me fait un peu capoter parce qu'effectivement, ça va alléger leur poche. Là, si, mettons, on prend ces mesures-là, autant de Mme Fréchette que M. Drainville, mais moi, ça m'apparaît acheter des votes, encore une fois.
C'est un peu ça. Puis promettre des chèques encore, il me semble, la CAQ a donné dans ce registre-là.
Puis on s'est insurgé à un moment de ça. Là. Tout le monde était comme arrêtez de donner des chèques, on n'est pas des dupes.
Oui, bien. Puis tu sais, je pense que le gouvernement, c'est parce que le gouvernement en ce moment est un peu absent et puis on est plus dans la course à la chefferie. Mais le gouvernement a aussi une responsabilité de faire un petit peu de pédagogie par rapport à cette affaire-là puis de rigueur. Et c'est sûr que quand les partis d'opposition contrôlent le jeu puis proposent des affaires super spectaculaires, mais le gouvernement a envie d'embarquer aussi. Puis là, étant donné qu'il y a une course à la chefferie, bien évidemment, les candidats embarquent. Mais dans les faits, là, c'est comme dire « on va sortir de la bourse du carbone ». Hey, c'est pas si simple que ça, là. Puis c'est sûr, c'est plate à défendre. T'es au gouvernement. Puis là, faut t'expliquer que non, on peut pas faire ça.
Oui, puis là, surtout, c'est qu'il y a personne qui est capable de me l'expliquer avec des exemples concrets. C'est là qu'ils perdent un peu de crédibilité,
beaucoup. On va se donner ce défi-là d'expliquer éventuellement qu'est-ce que ça fait la participation de la bourse.
Oui, mais j'aimerais que ce soit les politiciens qui me l'expliquent, qu'ils sont pas capables.
Ils
connaissent pas le dossier.
Oui, c'est possible.
Ça leur fait perdre la crédibilité.
Mais c'est dur. Parce
autant
que
Pascal Paradis, Christine Fréchette, t'as pas le cas de me l'expliquer.
Oui, puis honnêtement, moi, ça m'a pris du temps avant de le comprendre. Là, ça fait des années maintenant que je commente la politique. Puis quand il était question de bourse du carbone, j'étais comme, oh là 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 là, ça va être
c'est
compliqué à rendre ça simple.
Complexe.
Mais ça se comprend et je suis certaine que nos auditeurs sont tout à fait capable de comprendre s'il y a un politicien qui prend le temps de faire un petit peu d'explication là-dessus. Mais bref, bonnes intentions, on veut alléger le portefeuille, mais dans la manière de faire, je trouve qu'on commence à manquer de coin de table pour faire des propositions boboches.
Ah, ça donne, honnêtement, ça va prendre des mesures plus concrètes et pérennes plutôt que des mesures comme ça aléatoires. Christopher Bouchard, c'est qui? Ça, c'est un éducateur en petite enfance qui ne pouvait se trouver en situation d'autorité auprès de mineur en raison d'incidents et il aurait violé son ordonnance à une douzaine de reprises en écrivant à des parents comme quoi il était prêt à aller garder leur enfant, qu'il allait s'en occuper. Donc imaginez, ces parents-là ont peut-être, parce que je le mets encore au conditionnel, en raison justement qu'il n'y a pas, de culpabilité reconnue, auraient peut-être fait entrer un pédophile dans leur maison. Ça ramène toujours, Antonine, ces nouvelles-là, le débat sur est-ce qu'on devrait avoir un registre public des délinquants sexuels. T'en penses quoi?
Bon, il y a plusieurs couches à tout ça. Parce que premièrement, si t'as pas de condamnation, on peut pas avoir un registre de gens qui ont des allégations d'eux.
T'as entièrement raison. Donc, même si on avait un registre public, Christopher Bouchard passe dans les mailles du filet si jamais il est reconnu coupable après.
Du filet, disons, officiel et policier.
Ouais.
Mais du filet médiatique, ça peut être différent. Puis j'y reviens dans un instant.
Parfait.
D'abord, je veux vous expliquer comment fonctionne le registre des délinquants sexuels. C'est quelque chose qui est géré par la GRC. Hein. C'est national, mm-hmm. le registre, et c'est normal. Il faut que ce soit unifié. Mais on a un registre québécois qui en découle, qui est géré par la SQ. Si quelqu'un est reconnu coupable d'une infraction sexuelle, il doit aller s'enregistrer à ce registre-là. Il a 7 jours pour le faire. Tu n'as pas le choix, sinon ça peut évidemment mener à d'autres accusations. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce registre-là? Il y a ton nom, ta date de naissance, ton adresse, ta photo, les signes distinctifs, donc des tatouages, piercings, ouais, tâches de naissance, etc.
Pour qu'on puisse te reconnaître facilement.
Exactement. Ton véhicule, ton emploi et ton modus operandi. Donc, il y a des détails quand même importants qui sont là. Et tu peux être inscrit au registre pour une durée de 10 à 20 ans selon les décisions du juge. Donc, selon la gravité de tes gestes ou si tu es un récidiviste, évidemment, on risque de t'inscrire plus longtemps au registre. Puis, tu dois mettre tes informations à jour. C'est ta responsabilité. Tu dois signaler aussi si tu fais un voyage, si tu quittes le pays, etc., selon tes conditions de condamnation. Seuls les policiers ont accès à ça. Donc, vous et moi, on ne peut pas là, rentrer là, sur le registre puis aller faire des recherches sur des gens puis avoir ces informations-là. Puis, il y a pas mal de monde qui se disent « Oui, mais il faudrait que ce soit rendu public, peut-être du moins en partie, pour protéger le public. »
Oui, c'est ça,
ça le défi.
Pour protéger mes enfants. Parce que là, ce qu'on entend le plus souvent, puis avec raison, c'est « Coudonc, y a-tu un pédophile dans ma rue? »
Oui.
Parce que moi, mes petits garçons, puis là, je donne un exemple concret, de 8 et 10 ans, je les envoie à pied à école parce que moi et ma conjointe, on est partis travailler.
Ouais.
Ils vont au parc pendant qu'on fait à souper. On a confiance. Le parc est juste à côté. Ils vont chez des amis. Ça va toucher un pédophile. Y a-tu un pédophile qui risque de les attraper au passage? Tu sais, le fameux pédophile avec hey, viens, je vais te donner du chocolat ou viens voir mon chien.
Oui, puis ça arrive. Hein,
même
ça
arrive encore.
Si c'est des statistiques, ça arrive pas toutes les semaines. Ben, je veux dire, ce sont des choses qui arrivent.
Alors, c'est très légitime de la part du public de le demander, selon moi. Je suis dans l'erreur.
Oui, et on n'a pas pitié ben des pédophiles en général.
Ben non.
Donc là, tu fais confronter deux concepts. C'est la protection du public et ton droit de parent mm-hmm. à protéger ton enfant versus le droit à la confidentialité et à la réhabilitation même.
Oui.
Parce que si quelqu'un était reconnu coupable, il pourrait décider de se soigner, de revirer sa vie de bord, etc.
Exactement. Et à la protection aussi de cet individu-là, OK? Même si j'ai aucune sympathie envers le pédophile, puis là, je vais nommer un nom au hasard, mais mon oncle Roger peut décider d'aller y en sacrer une bonne sa marboulette parce que c'est un pédophile qui vit dans sa rue.
Et on le comprendrait d'avoir le goût.
Oui.
Moi, s'il y a quelqu'un qui touche à mon enfant, je va falloir que je m'en tienne bien, bien fort pour me retrouver moi-même en prison.
Moi, écoute ce que je vais dire sur les ondes radio. Moi, je vais toujours laisser la justice faire son cours. Comme ça, si jamais j'agis différemment, vous pourrez dire que j'agis sur un coup de tête.
Et tu as raison. Mais, tu sais, fait que là, j'arrête ici parce que
je veux pas
aller trop loin là-dedans. Mais donc, il y a tout ça qui se confronte, puis les gens ont zéro pitié envers les pédophiles.
J'avais parlé à une psychiatre spécialisée auprès des délinquants sexuels, puis elle avait expliqué le point. Puis c'est sûr qu'elle travaille avec eux. Puis elle a dit, au moment où ils sont ostracisés, ça veut dire que là, on sait son où, puis c'est qui. Ils ont moins de chances de se réhabiliter dans la société, puis ils ont plus de chances de retourner dans leur pattern, mm-hmm. de retourner dans leur délinquance sexuelle parce que personne ne veut leur parler, personne n'est...
Mais la stigmatisation extrême fait en sorte aussi qu'il y a des gens qui devraient aller chercher de l'aide pour se faire soigner, mais ont trop peur, donc ne veulent pas chercher de l'aide, donc effectivement... Donc, tout ça, c'est hyper complexe. Là. Puis ça vient chercher quelque chose d'extrêmement émotif chez les parents et essayer de convaincre les gens qu'ils ont le droit à leur vie privée puis de ne pas se faire casser la gueule quand ils sont mm-hmm. de chez eux, c'est pas évident.
Ben non.
C'est pas
gagnant politiquement non plus.
C'est
là.
Pas gagnant politiquement.
Parce que politiquement, ça vient exactement par texto aussi. Ben voyons donc, on va protéger l'agresseur
voilà.
plutôt que protéger les enfants.
C'est ça. Mais tu peux pas t'en prendre à quelqu'un dans la... Comment dire? S'il n'a pas encore posé de gestes. Puis, tu sais, ça me fait toujours penser au film Minority Report avec Tom Cruise où est-ce qu'il y avait des gens qui étaient capables de voir dans l'avenir puis là, ils voyaient mm-hmm. que quelqu'un allait poser un crime puis arrêtaient les gens avant qu'ils posent le crime. C'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie, malheureusement. Mais quand quelqu'un a commis des crimes, il est sous surveillance. Donc, évidemment, ça veut pas dire qu'il peut pas sortir dans la rue puis croiser votre enfant dans la rue, puis c'est là que ça vient nous chercher. Mais ils sont quand même sous surveillance davantage en étant inscrits au registre. L'autre élément, c'est que les médias font quand même un travail là-dessus.
Ben oui.
On sait que Québécois, notamment, sort régulièrement des cartes. Il y a-t-il un pédophile dans votre quartier? Mm-hmm. Puis eux, ils font le travail de répertorier ce qui a été couvert médiatiquement. Donc, et aussi, si t'es accusé de quelque chose, même si t'es pas reconnu coupable, souvent, il va y avoir un article qui va couvrir tes accusations et les faits reprochés.
En effet, donc, exemple, avec justement le nom de Christopher Bouchard, qui s'établirait dans ma rue dans 5 ans, puis que j'aurais un nouvel enfant de 4 ans. Ah, mon nouveau voisin, Christopher Bouchard. Google, Christopher Bouchard.
Google est quand même un bon registre pour savoir des choses sur le monde.
Je vais le savoir. Donc, moi, au vu au-dessus de ça, Antonine, et j'ai complètement changé mon thinking par rapport au départ, parce qu'au départ, moi, je me disais, qu'on le sache, le maudit écœurant, on va le savoir que le pédophile est là. Et j'étais dans un comportement un petit peu plus rancunier, vengeance. Et là, au vu aussi de ça, et parce que je prends de la réhabilitation sociale, j'ai pas le choix de te dire que c'est mieux que ça soit géré par la police et que le citoyen a d'autres moyens, comme je viens de le dire, avec un simple Google.
Ouais, puis quand même, j'ajoute que la réhabilitation des pédophiles, c'est pas évident non plus. Là.
Non.
Pis, je sais que les gens vont nous écrire, ils se réhabilitent pas, ils récidivent. Je le sais, OK. C'est vraiment... C'est émotif, c'est dur. J'ai pas envie de les défendre. Mais il y a toujours les médias qui font un excellent travail. Puis aussi, avant de se faire embaucher dans un emploi avec des enfants, il y a quand même une vérification qui est faite. C'est ce qu'on appelle une demande d'empêchement.
Même en tant que bénévole.
C'est ça.
On vérifie les antécédents judiciaires, tu vas aller faire prendre tes empreintes.
Exact. Tu veux te siéger sur un CA d'un CPE, ils vont vérifier, même si tu as eu un ticket. Là. Donc, ça, ils vérifient. Le problème, c'est le cas comme tu nous présentais tantôt, c'est que s'ils font des annonces sur Marketplace, bien, c'est sûr que là, les gens, des fois, ils sont un petit peu plus prêts au dépourvu, ce qui m'amène à dire aux gens, vérifiez avant de faire rentrer un adulte inconnu dans une maison ou de les faire approcher de vos enfants. Puis même dans le milieu du sport, soyez vigilants. Dans vos activités artistiques, culturelles avec les enfants, il faut être vigilant parce que malheureusement, puis on le voit dans les pages des journaux, il y en a des coachs, des éducateurs, des profs qui se font pogner.
Faites comme moi, coacher au hockey comme ça, les prédateurs sexuels.
Le surveiller comme il faut, exactement. Il faut s'impliquer comme parents.
On termine avec un texto très intéressant d'un auditeur ou d'une auditrice. Au Canada, on ne prévient pas le crime, on le punit. Après qu'il ait été commis, je ne voudrais pas vivre dans un endroit où on est arrêté avant de commettre un crime au cas où.
Ben,
ça résume bien notre pensée.
C'est ça. Puis il y a d'autres manières de prévenir que de se faire justice soi-même, évidemment. Donc,
entièrement d'accord.
C'est pas évident.
Oui. Antonine Iacarini, toujours un bonheur de t'avoir dans le caucus. Tu es dans le caucus avec nous mardi, mercredi et jeudi de cette semaine. Grosse semaine de budget. Et tu seras dans le retour aussi avec Véro et Audrey mercredi en l'absence de Denis.
Ben oui, on va
avoir... Tu y prends goût?
J'y prends goût, mais tu sais, j'aime aussi l'émission du midi. J'aime l'émission du matin. Je vous aime tous.
Ben, je vais te redire ce que tu m'avais jadis dit. Oublie jamais tes premières Après la pause, on parle de deux sujets très chauds dans l'actualité, c'est-à-dire cet homme à la quai de chemin qui a agressé physiquement un arbitre après une partie Junior D. Oui, vous avez bien dit Junior D. Vous avez bien entendu. Et également, on va parler avec Marc Ranger, notre spécialiste en relations syndicales, parce que les médecins spécialistes ont décidé... Oh ya, mais on va l'allonger, cette liste d'attente-là de rendez-vous, parce que nous autres, on n'est pas satisfaits de notre salaire. On parle de ceci dans un instant, Boulevard 102.1, l'émission d'En Jase. On en jase, ton émission d'actualité, que ce soit locale, provinciale, fédérale, ou voire même internationale, avec ce qui se passe présentement. On vient d'ailleurs de faire un grand tour avec Antonine Iacarini dans le caucus qui sera disponible sur notre page YouTube. Abonnez-vous à notre page YouTube, vous y retrouvez les caucus, les pit stops également avec Denis Gravel le matin. Et aussi, bien, on en jase, on parle des sujets qui vous touchent. On va parler d'ailleurs avec Mathias Turcotte dans quelques instants, après le bloc nouvelle de Pascal CV, de cet homme, ce père de famille qui, à la quête de chemin, décide d'agresser un arbitre après un match, lui causant des blessures. Entre-temps, la météo, c'est quelques averses cessant cet après-midi. On est présentement à 5 degrés. Il y aura également ce soir prévu de 5 à 10 mm de pluie. Et pour demain, mardi, le mercure chute à moins 2. Donc, ça va être de la neige intermittente, des vents du sud-ouest de 50 km/h avec rafale à 80 km/h. On va aller jusqu'à moins 7 en après-midi avec un refroidissement éolien de moins 18. Donc, ça va être une journée difficile demain. Prévoyez vos déplacements en conséquence. Pascal, avant qu'on passe à ce sujet qui a fait tant jaser depuis hier lorsqu'on a vu cette vidéo improbable d'un parent qui s'en prend une arbitre de hockey à l'aréna de Lac-Etchemin. Dans l'actualité, quels sont les sujets les plus importants?
Oui, bien c'est sûr que ça, on peut en parler parce que ben, l'homme de 39 ans qui a attaqué les arbitres a été arrêté pour voie de fait et a été libéré sous promesse de comparaître. Alors c'est sûr que ça, ça complète un peu ce que tu viens d'évoquer. Sinon, énormément de nouvelles. Bruno Marchand qui a qualifié Sylvain Junod d'apôtre de l'inertie. La tension est forte entre le maire de Québec et son homologue, le maire de Saint-Augustin-des-Morts, vu les critiques que Sylvain Junod a émises au sujet du projet de tramway. On s'attaque pas au projet de tramway de Bruno Marchand. Hein? Et lui est en déplacement vers l'Alberta. Il a réagi ce matin à la lettre ouverte écrite aux médias par Junod. Bruno Marchand a laissé planer que son homologue essayait de couler le projet de tramway, mais qui n'était pas le premier. Parlant du projet de tramway, Jeff Le Soleil nous apprenait que la Ville de Québec a franchi le cap des 5 millions de $ de dépenses en publicité et en information pour le dit projet.
On va parler de ces deux sujets-là avec Sylvain Junod tout à l'heure aux alentours de 13h05, 13h10. La guerre est officiellement lancée entre Bruno Marchand et le maire de Saint-Augustin-des-Morts.
Bruno Marchand a maintenu sa plainte aussi envers le courtier immobilier Simon Laberge, le maire de Québec, qui affirmait aujourd'hui toujours attendre les excuses du courtier immobilier après la publication la semaine dernière d'une vidéo TikTok dans laquelle il critiquait le projet de tramway en utilisant les termes « malade mental » à l'égard de Bruno Marchand. La garderie de Laval, Pierny-Saint-Amand, est déclarée accusée à haut risque. Celui qui a tué deux enfants en fonçant à toute vitesse dans une garderie en 2023 a été jugé toujours dangereux par le tribunal. Je vous rappelle, il a fait ça avec un autobus. Hein? Il est rentré de plein fouet dans le bâtiment, la garderie. Le verdict a été prononcé ce matin. On a souligné la nature si brutale des gestes de l'accusé qu'il y a une probabilité marquée d'une récidive. En avril 2025, Pierny Saint-Amand avait été jugé non criminellement responsable de ses gestes en raison de troubles mentaux. On qualifiait qu'au moment des gestes, il était en psychose. Ni Saint-Amand est toujours détenu à l'Institut de psychiatrie légale Philippe Pinel. On va se défendre. Bras de fer entre les spécialistes et Santé Québec. Les médecins spécialistes se disent prêts à défendre le groupe contre la matraque gouvernementale face aux menaces de Santé Québec et aussi infliger des sanctions disciplinaires. S'ils boycottent le guichet unique, le CRDS, pour les consultations de tout le monde. Là. Donc, dans le cadre de moyens de pression, les médecins spécialistes ont mis leurs menaces à exécution aujourd'hui. Les Québécois vont devoir se tourner vers le fax, le téléphone pour prendre des rendez-vous en santé. On revient un peu aux anciennes méthodes. Les spécialistes demandent 14,5% d'augmentation de l'enveloppe globale de 5 milliards de dollars sur 5 ans. Le gouvernement Legault offre 11%. Les négociations sont au point mort.
Dans une dizaine de minutes, on en parle avec notre spécialiste en relations syndicales, Marc Ranger. Si vous l'avez manqué, vendredi dernier, c'est disponible sur le blvd.fm. Pascal Renault, président de la Fédération des médecins omnipraticiens de Québec, est venu nous parler justement de cette bonne nouvelle où il y a une 60 000 de clients vulnérables qui sont pris en charge par des médecins de famille. Il nous explique aussi la différence entre l'urgence et les cliniques. En clinique, tout fonctionne par informatique. En urgence, on fonctionne encore par fax. C'est une entrevue à ne pas manquer, à réécouter sur blvd.fm.
Un peu plus de 20 000 membres caquistes vont élire le 12 avril prochain le premier ministre, hein, parce que Christine Fréchette ou Bernard Drainville va succéder à François Legault à la tête de la coalition Avenir Québec, au moins jusqu'aux prochaines élections. Donc, 5 500 nouveaux membres ont adhéré au parti depuis le lancement de la course à la chefferie. Ça porte le nombre à 20 576. Conflit au Moyen-Orient, bientôt vers 2 $ le litre d'essence. Et c'est pas seulement à la station-service que les impacts vont se faire sentir, mais également sur le prix de l'épicerie. Je vous rappelle que depuis les attaques contre l'Iran, le pays a bloqué le détroit d'Ormuz, là où passe 20 % de l'approvisionnement de pétrole au monde. Et qu'au Québec, c'est 25 % du pétrole qui est importé de l'extérieur du Canada. Aujourd'hui, les États-Unis autoriseraient à nouveau les pétroliers iraniens à transiter par le détroit. Mais c'est un peu tout le monde qui est sur ses gardes, là.
Mathias Turcotte est avec nous en studio pour nous parler de cet événement très dommage qui s'est produit à l'aréna de Lac-Etchemin alors qu'un parent agressait un arbitre à la fin du match. Un auditeur nous écrit justement Hey, de l'extrême lâcheté d'un parent d'attaquer un arbitre de surcroît par l'arrière quand il a ses patins. Wow! En effet, c'est un geste totalement disgracieux. Mathias Turcotte, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Mathias, je te parlais avec un de mes politiciens préférés, Enrico Ciccone, ancien dur à cuire de la Ligue nationale de hockey. Il est porte-parole de l'opposition officielle en matière de sport, de loisirs, de plein air et de saines habitudes de vie. C'est très personnel ce que je vais dire, mais pour moi, c'est lui le vrai ministre des sports. C'est lui qui fait changer les choses. Comparativement à Isabelle Charest. Tu as parlé évidemment de cette situation-là qui s'est produite à la Quai de Chemin.
Ben oui, forcément, parce qu'on va s'entendre, c'est inacceptable là, des situations de même. Puis on a l'impression que c'est de plus en plus présent des parents qui critiquent les arbitres, qui insultent les arbitres. Puis maintenant, des parents qui agressent les arbitres. Puis on va se dire, c'est inquiétant, parce que des arbitres, c'est pas ça qui court les rues en ce moment. Là.
Vraiment, moi, pas plus tard que v'là deux semaines avec ma gang de parents que j'adore du côté des Bucks de Charlebourg, il y a eu un petit débordement quand même d'émotion dans le match et je suis parti d'en arrière du banc pour aller devant les estrades et demander à mes parents d'adopter un bon comportement parce que c'est important de conserver nos arbitres si on veut que nos enfants jouent. Et en même temps, excellent règlement d'Hockey Québec qui certifie que si les parents ne se calment pas, tu as un 2 minutes à ton équipe. Donc, prends ta pédale douce. Prends ton gaz égal, comme on dirait en tant que parent.
Respire un peu, c'est même pas toi qui es sur la patinoire. C'est ça quand même. T'as vraiment bien fait. Puis justement, M. Ciccone, il a tenu à parler d'un point en particulier parce que pour lui, la grosse sentence que cet homme-là va recevoir, c'est pas nécessairement... On va voir les accusations et ce qui va en découler, mais c'est pas nécessairement tout ce processus-là. La grosse sentence, c'est le jugement, le regard que son jeune sur la patinoire lui portait à ce moment-là.
La plus grande sentence, la plus grosse sentence que ce parent-là va avoir, c'est le regard de son enfant. Tu sais, je veux dire, il fait honte à son enfant quand il fait des choses comme ça. Il fait honte à notre sport également. Puis à un moment donné, c'est sûr que je ne rentrais pas plus laissé judiciariser. Là, le parent était arrêté sur la sentence, mais au niveau là, humain, là, la plus grande sentence, c'est le regard de tes enfants quand tu fais quelque chose comme ça. Puis moi, je ne peux pas concevoir que les parents, encore aujourd'hui, s'y prêtent là, à des gestes comme ça tout à fait inacceptables.
En effet, c'est impossible de penser qu'un parent peut en venir à de la violence physique envers un officiel. Oui, la plus grande sentence va être le regard de jeune, surtout à cet âge-là. C'est des jeunes de 18 à 22 ans. Toi, Matt, il n'y a pas longtemps, tu jouais au hockey sur glace, justement. Si ton père ou ta mère pétait un plomb dans les estrades, tu devais les remettre à jour.
Ben, un, c'est gênant. De deux, ils n'ont pas d'affaires à faire ça. Je veux dire, des joueurs de hockey sur la patinoire, il n'y a rien de plus dérangeant puis de fâchant d'entendre des parents crier dans les estrades. Puis je le pense honnêtement, quand j'étais joueur, que ce soit des parents qui insultaient l'arbitre ou que ce soit des parents qui insultent les joueurs, là, parce que des fois, t'entends ça aussi, des parents qui crient après des joueurs sur la patinoire parce qu'ils n'ont pas pris la bonne décision, c'est dérangeant, puis c'est tannant en maudit quand t'es sur la patinoire en train de jouer puis de te donner.
Vraiment. La grande question, Mathias, à se poser avec ce parent-là, c'est est-ce qu'il doit remettre les pieds dans un aréna? Moi, pour moi, ça prend une suspension à tout le moins pour une année, le temps qu'il tempère bien. Qu'est-ce qu'Enrico Ciccone en pense?
Je vous laisse entendre. Il n'a pas voulu trop se tremper, mais visiblement, il a un peu son idée à propos de ça.
Ben, je dis, écoutez, moi, je pourrais, comme je vous dis, il faut que je fasse très attention, parce que vous savez que le judiciaire est complètement indépendant du législateur, là. Je voudrais pas non plus influencer. Moi, je sais ce que je donnerais si j'étais juge. Je vais le garder pour moi. Mais bon, tu sais, c'est sûr que c'est une possibilité. Puis ça va voir, ça va être au juge de décider. Mais on l'a déjà vu dans le passé, là. Tu sais, il y a des parents, il y a des joueurs de hockey qui ont été bannis à vie aussi. Puis il va y avoir peut-être des sanctions au niveau de la Ligue aussi.
Il va faire une bonne vieille vidéo aussi sur la sensibilisation aux gens, parler de son vécu, pourquoi il ne faut pas s'en prendre aux officiels, pourquoi il faut être justement bon joueur. Enrico, tu connais, parle d'une sentence à vie. Je suis pas en désaccord non plus, je vais t'avouer.
Oui, puis pour vrai, là, je veux dire, c'est le genre de geste qu'on veut pas voir. Des parents qui se battent ensemble dans les estrades, j'en ai déjà vu. Là, ceux qui vont au match de Junior 2A, qui s'appelle maintenant Junior B, mais je veux dire, on en voit là, durant des séries, ça s'emporte dans les estrades, ça commence à se battre. Ça, c'est tel que tel, parce que c'est deux parents qui savent pas se contrôler, qui se tapent l'un sur l'autre. Là, l'arbitre, il a rien demandé, lui. Puis déjà là, c'est pas acceptable, ça.
Exactement.
Mais là, avec le parent qui va s'attaquer à l'arbitre, là on va chercher une coche de plus.
On franchit une ligne qu'il ne faut pas franchir.
C'est des gestes qu'on ne veut pas voir. Fait que c'est sûr et certain que ce parent-là qui a pété des câbles, va falloir qu'il y ait des punitions, va falloir qu'il y ait une sentence adéquate pour éviter que ce genre de geste-là se reproduisent.
Mathias Austre, gros dossier concernant le hockey. C'était dans les journaux de Québécois cette fin de semaine. Des agents de joueurs qui recrutent des jeunes de 10 à 12 ans. Quand j'ai lu ça, j'ai fait... Eh, voyons donc, les kids peuvent-tu s'amuser, s'il vous plaît?
Ben, c'est ça, il y a un malaise, hein, parce que faut... Non, mais...
C'est un kid, raison. Là, il joue au hockey pour le fun, là. Il peut-tu pas penser qu'il va faire la Ligue nationale puis se mettre de la pression, s'il vous plaît?
Tu sais, tu l'as dit... Avant tout, le hockey, quand t'es jeune, puis même quand t'es vieux, pour moi,
c'est
faut que ça reste
jeu.
Ça. Faut que tu t'amuses en le faisant.
C'est-tu ce que je fais en tant que coach? Les gars sortent de la chambre, sont midget, ils ont de 16 à 18 ans. Je tape sur le gant de chaque joueur, puis je lui dis « Amuse-toi, c'est un jeu. »
C'est ça. Ça paraît con, là, parce qu'on sait tous que c'est important de gagner, puis on veut tous gagner quand même. Quand tu joues un sport de haut niveau compétitif, tu veux gagner. Mais faut jamais oublier que c'est un jeu avant tout, puis que le but, c'est d'avoir du fun. C'est pour ça qu'on joue au hockey avant tout. Puis là, de voir des jeunes se faire approcher par des agents de joueurs, de un, la pression que ça met sur le jeune, les attentes du parent qui sont probablement sur ce jeune-là pour que le jeune performe, c'est sûr qu'il y a un certain malaise autour de ça. J'en ai parlé à Enrico Ciccone, puis c'est intéressant parce qu'il a déjà travaillé avec un agent de joueur qu'il me disait par le passé. Puis à l'époque, c'était déjà des jeunes de 14, 15 ans qui se faisaient approcher. Puis il m'a dit, à l'époque aussi, je ressentais un malaise. Mais nous, on ne faisait jamais signer de contrat parce qu'il a tenu à me le rappeler avant tout. C'est un contrat avec l'enfant, mais c'est quand même le parent qui signe ce contrat-là.
Mais en même temps, là, au niveau légal, là, le joueur, lui, c'est pas le joueur qui signe le contrat, là, c'est les parents, puisqu'ils sont les tuteurs de l'enfant. Mais rendu à 18 ans, là, si le jeune ne veut plus avoir cet agent-là, tu sais, je veux dire, il va falloir re-signer un autre contrat. Fait que, tu sais, dans le fond, ça donne quoi de signer ce genre de contrat-là? Moi, j'ai toujours pensé que si tu veux bâtir une relation, bâtir une relation, je veux dire, avec des joueurs, mais en même temps, faire signer des contrats, ce genre de choses-là, puis 12 ans, tu sais, je veux dire, tous ceux qui connaissent le hockey un petit peu, là, c'est très bien qu'à 12 ans, là, tu as des joueurs étoiles partout.
Il frappe un bon point, c'est à sensibiliser les parents avant tout de dire aux agents de joueurs, hey, « Approche-toi pas de mon kid, là, il y a 12 ans. »
Mais je trouve ça intéressant que tu me parles de sensibilisation de parents parce que par la suite, je lui ai posé la question comment on peut contrôler ça. Puis de son côté, c'est ça qu'on m'a dit, légiférer sur ces choses-là, ben c'est pas nécessairement évident.
Légiférer en ce sens-là, ça pourrait être très difficile selon moi, là. Parce que les parents, c'est sûr et certain qu'il y a une limite. Là. On ne veut pas rentrer dans la chambre à coucher et dans les maisons des familles. Là. On ne veut pas dire aux parents comment élever leurs enfants. Il y a quand même une limite, mais en même temps, on peut les sensibiliser.
Oui, c'est ça, parce que créer une loi pour ça, là, tu mets la barre où? Tu mets la limite où? 16 ans? 18 ans quand il va être adulte? Mais on sait très bien que rendu à 16 ans, quand tu as un potentiel de jouer dans le midget élite, bien là, après ça, c'est le junior majeur qui t'attend, puis tranquillement, tu gravis les gestions. Maintenant, avec les niveaux scolaires, il y a beaucoup de gens qui vont être bantam élite aussi, qui savent qu'ils vont s'en aller midget élite. Fait que je pense que c'est vraiment une responsabilité de parents, puis c'est aux parents d'être assez intelligents pour dire hey, gars, mon kid est trop jeune. Ou, écoute, t'as bien beau croire en mon kid. Moi, j'y crois pas. On va le laisser s'amuser. Ça se peut, ça aussi. Là.
Oui, puis ce serait bien correct. Parce que c'est légiféré, je veux dire. Tu regardes du côté des acteurs, par exemple. Il y en a des contrats qui sont signés avec les parents pour des jeunes acteurs. Donc, tu t'embarques dans de quoi qui est vraiment compliqué. Puis pourquoi tu le ferais dans un milieu, mais pas dans un autre, par exemple? C'est un peu ça l'exemple qu'il me donnait. Fait que je pense que de la sensibilisation aux parents, là, parce que 10 ans, c'est jeune en maudit. Mm-hmm. Laissons le jeune se développer, laissons le jeune s'amuser. Puis pour les contrats, pour le reste de sa carrière, on verra quand il sera un peu plus vieux.
Exactement. Mathias Turcotte, merci infiniment pour ce très bon dossier. Encore une très, très, très belle job. Et en passant, ça réagit par texto des gens qui disent « Ouais, moi, je donnerais une petite suspension aux parents pour la fin de l'année. Je crois en la rédemption. Notre auditeur qui nous dit « Hey, moi, savez-vous quoi? J'ai pas joué au hockey parce que mes deux frères plus vieux jouent au hockey puis j'entendais juste mon père hurler dans les estrades, puis ça me tentait pas. Hey, c'est-tu de valeur, le gars peut-être passé à côté d'une passion.
Ça en dit long, ça.
Oh, ça en dit très long. Merci beaucoup, Mathias Turcotte. Ça
fait... À Boulevard 102.1, avec Jeff Fortin et Pascal Cévé. jusqu'à 14.
Les médecins, c'était les médecins de famille avant les fêtes. Là, Pascal, c'est les médecins spécialistes qui se plaignent de leurs conditions. Mais là, on y va en moyen de pression, puis c'est 20 % des chirurgies qui pourraient être retardées. On a déjà des grosses listes d'attente.
Oui, oui, oui. On dit qu'on va se défendre. Hein? C'est un bras de fer entre les spécialistes, les médecins spécialistes et Santé Québec, tellement que les médecins se disent prêts à se défendre contre, ils appellent ça la matraque gouvernementale, face aux menaces de Santé Québec, parce qu'on veut leur infliger des sanctions disciplinaires si jamais ils boycottent le guichet unique, le CRDS, hein, pour les consultations. Ça veut dire que toi, Jeff, tu voudrais prendre une consultation avec un médecin spécialiste, ben, il faudrait que tu retournes au fax et au téléphone. Et ça, c'est déjà le cas. On a mis ça en branle aujourd'hui. Ça fâche ben gros le gouvernement. Et les spécialistes, je vous rappelle, demandent 14,5 % d'augmentation de l'enveloppe globale de 5 milliards de dollars sur 5 ans. Le gouvernement, lui, gouvernement Legault, offre 11 %. Donc, les négociations sont au point mort.
Et pour en parler avec nous, on a Marc Ranger, conseiller stratégique chez Ryan Affaires publiques et spécialiste en relations de travail dans les médias. Marc, comment vas-tu?
Ça va très bien. Salut à vous deux.
Salut. Marc, dis-moi donc, les médecins disent, ben non, ça n'impactera pas le public. C'est juste 20 % des rendez-vous qui étaient pris justement par ce fameux système, le CRDS. Mais, tu sais, 20 % dans une situation où on a déjà des listes d'attente très élevés en termes de délai qui peuvent aller, par exemple, jusqu'à un an et demi pour un remplacement d'une hanche. C'est énorme, là.
Oui, puis je ne peux pas croire que ce n'est pas encore réglé. Dans le fond, quand on regarde les chiffres, là, il n'y a pas un écart si grand que ça entre les deux. Mais ce qui est un peu particulier, rappelle-toi, Jeff, c'est qu'en début de négociation, autant les médecins omnipraticiens, dans le fond, les deux fédérations, avec la Fédération des médecins spécialistes, disaient que les salaires, le salaire, ce n'était pas un enjeu. On a vu au fur et à mesure que des derniers mois que c'était
Marc,
un enjeu.
Mensonge!
Oui,
les
oui.
omnipraticiens acceptaient parce qu'il y avait 17 % d'augmentation salariale. Puis là, on coupe des gens de chirurgie pour 3 % de différence dans les négociations en termes de masse salariale, en termes d'augmentation salariale pour les spécialistes.
Oui, puis je vais être clair, là, moi, je blâme les deux parties. Je blâme le gouvernement parce que les négociations avec les médecins, ils n'ont plus aucune crédibilité. On a vu, ils sont partis tellement loin, un projet de loi. Le ministre Christian Dubé, maintenant, est sur une banquette comme député indépendant. Je veux dire, c'est un gâchis sur toute la ligne, ces négociations-là. Et là, il y a un écart d'à peu près 150 millions entre la position du gouvernement et les médecins spécialistes. Mais quand tu regardes de près et tu écoutes les déclarations, le président de la Fédération, le Dr Oliva, a dit que 14,5, c'était pas ferme, qu'il était capable de revoir cette enveloppe-là. Comment ça se fait qu'on se retrouve encore dans des positions braquées de menaces? D'un côté, le gouvernement qui continue à dire qu'il ne bougera pas, puis de l'autre côté, on commence à exercer des moyens de pression qui, oui, vont faire mal, oui, vont allonger les listes d'attente. Fait que c'est pour ça que je dis, moi, je blâme les deux, puis la FMSQ, encore une fois, ils ne m'aimeront pas, là, mais moi, je pense qu'une des erreurs, ça a été d'aller chercher Lucien Bouchard en pensant encore que c'était le sauveur qui allait marcher sur les eaux pour régler cette négociation-là. En tout respect, je dis, là, mais on l'a vu, il a fait des déclarations hallucinantes l'automne dernier sur la place publique. Tu sais, moi, j'ai beaucoup négocié dans ma vie, puis tu sais, sur plusieurs décennies, là. Et je me suis pas permis d'aller sur la place publique à ramasser comme ça des vis-à-vis ou autres. Et il a pris tout l'espace, toute la place. Puis la FMSQ pensait qu'avec un gros nom comme ça, que ça allait tout régler. Mais là, maintenant, je reviens aujourd'hui. La présidente du Conseil du Trésor, qui est maintenant France-Hélène Duranceau, devrait regarder les chiffres et regarder la réalité, là. Comment on fait? Parce qu'on n'a pas les moyens de se passer non plus de nos médecins spécialistes. Moi, j'en ai vu un la semaine dernière encore, d'excellents services, ça. On n'a pas les moyens de s'en passer. Mais là, les porte-paroles respectifs, les positions respectives, ça ne marche pas. Moi, je pense que la population, elle est probablement comme moi. Moi, je ne suis plus capable d'en entendre parler de cette situation-là. L'écart n'est pas très grand. Est-ce qu'il y a un adulte dans la pièce qui va être capable qu'on évite de rejouer dans le film, qui va régler ça?
Oui, parce que Marc, t'es en terminant sur ce sujet-là, c'est vraiment l'œuf et la poule, là, dans le sens que qui a commencé le premier à bâcher l'autre dans les médias, puis là, personne ne veut flancher parce qu'on est dans une guerre d'égo.
Oui, puis là, j'espère que... En tout cas, moi, je pensais que ça se réglerait avant la décision à la course de la CAQ, là. Mais là, moi, je pense que il y a quelqu'un qui devrait être capable de régler ça ou de passer des messages. Est-ce que c'est Christine Fréchette avant si elle est élue, passer certains messages en coulisses à ses amis pour être capable de régler ce conflit-là. Je ne veux pas juger, là, est-ce que ça va être Bernard Drinville ou elle, mais actuellement, si on regarde, toutes les chances sont peut-être du côté de Christine Fréchette. Mais je ne peux pas croire qu'on laisse traîner ça. Je ne peux pas croire que le gouvernement dit, moi, là, je ne rajouterai pas une scène, alors qu'on sait très bien qu'ils ont fini par céder dans le cas de la FMOQ. Puis ce que je dis, moi, je ne juge pas qu'ils gagnent trop ou pas assez. Ils ont un rôle essentiel à jouer, mais il faut que quelqu'un puisse... L'écart n'est pas grand maintenant. Est-ce que ça pourrait se régler à 13 % entre les deux un peu? Mais ça ne vaut pas la peine de recommencer à jouer avec les listes d'attente. Il ne faut pas que ça arrive. Il ne faut pas que ça arrive.
Pour rappel, on parle avec Marc Ranger, conseiller stratégique chez Ryan Affaires publiques et spécialiste dans les relations de travail dans les médias. On parlait de la situation tendue entre les médecins spécialistes et le gouvernement. Maintenant, Marc, j'ai-tu la lubie? J'ai-tu rêvé? Est-ce que je vis d'une maladie où ma mémoire est en perte cognitive? Mais le président du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes s'est vanté d'être allé chercher des augmentations de 6,5 % en 2024. Y a-tu oublié le fait que ça fait 2 milliards que le gouvernement fédéral réinvestit dans Postes Canada?
Écoute, Jeff, tu m'as texté là-dessus. Puis je t'ai répondu, là, on le mettra pas public, mais j'ai même pas fini ma phrase. On était à la même place. J'hallucinais de voir cette déclaration-là. Quel manque de tact! Premièrement, là, ils ont eu une entente de principe chez Postes Canada au mois de novembre dernier. C'est même pas encore voté par les membres.
Mais non, là, puis là, ça va se voter jusqu'à fin mai, là.
Ça, écoute, là, je vais le dire une dernière fois, je te le promets. Puis je veux pas sacrer en ondes, mais ça n'a aucun crisse de bon sens, cette négociation. Ça... Pas de bon sens de traîner autant au niveau d'une entente de principe. Et en plus, comme tu viens de dire, pourquoi se mettre à se vanter que la première année, il y avait déjà un pourcentage qui avait été versé comme avance. Là, il va y avoir un autre pourcentage. Oui, ça va faire 6,5 % la première année. Mais comme tu dis, Postes Canada est en faillite technique. Cette entente-là est une maudite bonne nouvelle. Comment ça se fait que ce n'est pas voté encore? Mais tu sais, j'en arrive à me dire, là, que le syndicat semble retarder l'entrée en vigueur de cette entente-là. Parce que normalement, là, tout le monde me disait « oui, peut-être qu'elle va être rejetée ». Le syndicat n'arrête pas de vanter les mérites depuis 5 mois de leur entente de principe plutôt que de passer au vote. Moi, je dis qu'elle va passer, d'après moi, très fort auprès des membres parce que, tu sais, c'est une situation de quasi-faillite qui ont été chercher une très bonne entente dans les circonstances. Mais c'est quoi ce jeu-là, ce scénario-là d'étirer le temps avant de faire voter les membres? Alors que, fait que moi, je ne peux pas penser autrement qu'ils veulent retarder des changements nécessaires qui ont été négociés. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont graffiner au niveau des emplois, mais les deux parties ont réussi quand même à s'entendre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais, tu sais, quand tu as un beau résultat, moi, j'ai toujours dit qu'il faut avoir le triomphe modeste. Je l'ai dit dans chacune de mes négociations au président, présidente de syndicat, de se taire quand tu as un bon règlement. Par respect. Puis dans ce cas-ci, tu viens de le dire, le gouvernement fédéral a reprêté un autre milliard de dollars en début d'année juste pour payer les salaires. Quel manque de jugement, quel manque de délicatesse. C'est l'ensemble de l'œuvre dans ce cas-ci. Ce syndicat-là a besoin, pas ses membres. Ses membres, là, je regarde à tous les jours depuis 2 ans, puis ils se dévouent sur le terrain. La direction syndicale de Postes Canada, elle est malade. J'avais déjà dit que Postes Canada, comme direction, doit se regarder le nombril aussi. Mais cette direction-là est malade. Puis cette déclaration-là, moi, j'en revenais pas quand je l'ai lue. J'en revenais pas.
Marc Ranger, t'aurais pas pu mieux dire. Le syndicat, présentement, ralentit les changements à Postes Canada. Marc, toujours un bonheur de se parler. On se reparle prochainement avec, justement, ces dossiers chauds de l'actualité.
Parfait, salut.
Salut Marc Ranger, conseiller spécial chez Ryan Public et notre expert en termes de relations syndicales. Pascal, on est vraiment rendu bon, on fait sacrer Antonine, on fait sacrer Marc Ranger directement à la radio. Je pense qu'on appuie sur les bons boutons.
Oui, en même temps, on le comprend. Lui essaie de parler pour toutes les affaires publiques et les relations de travail dans les médias, puis à un moment donné, il se fait remplir d'un bord puis remplir de l'autre. faut qu'ils défendent ça sur la place publique. Quand ils trouvent que ça fait plus de sens, ça fait plus de sens.
Il y en a peut-être un qui va sacrer en nombre dans quelques instants à Boulevard 101, à l'émission d'En Jase. On parle avec le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, Sylvain Junot, qui se fait traiter par le maire Marchand, qui est présentement en Alberta, d'apôtre de l'inertie. C'est à On en Jase sur Boulevard 101, dans quelques instants.
On en Jase à Boulevard 101.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, On en Jase.
On en jase, ton émission d'actualité du midi sur les ondes de Boulevard 101 avec Jeff Fortin et Pascal CV. Que tu sois à Lévis, Québec, Montréal, aux États-Unis, l'application Boulevard 101 disponible sur App Store et Google Play Store demeure la meilleure façon de nous écouter. Donc, va la télécharger immédiatement. T'as aimé entendre Marc Rangé sacré en ondes? Ça va se retrouver sur le blvd.fm immédiatement après l'émission. En attente de parler avec Sylvain Junot, maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, concernant cette chicane avec Bruno Marchand à propos du tramway. Pascal, grand moment dans l'actualité. Bien, pas grand moment, mais c'est-à-dire moment important parce que Donald Trump donnait un point de presse, puis là, il aurait dû, hey, on vous protège depuis 40 ans, vous autres. Les hommes donnent un coup de main en Iran.
Oui, c'est pas mal, en fait, ce qu'il a dit pendant son point de presse. Il y a peu de choses qui en ressortent. C'est souvent les mêmes choses que ce matin qu'on peut lire là, depuis la fin de son point de presse dans l'actualité. Mais effectivement, il a dit « Depuis 40 ans, on vous protège. » Il s'adresse particulièrement à ses alliés, à l'OTAN. Mais Trump encourage vivement ses alliés à l'aider avec le détroit d'Hormuz, hein, qui est paralysé en ce moment et qui nuit à la commercialisation et surtout au pétrole, à la circulation du pétrole et donc qui fait hausser le prix aux stations d'essence. Mais il a reproché à certains pays de ne pas vouloir s'impliquer dans la sécurisation du détroit d'Hormuz après son appel à aider les États-Unis, son pays, dans cette tâche au cours du week-end. Il dit « Depuis 40 ans, on vous protège, vous ne voulez pas vous impliquer dans quelque chose de très mineur. » Il considère que c'est mineur. Il dit « On encourage vivement les autres pays à s'impliquer avec nous et le faire vite, avec beaucoup d'enthousiasme. » C'était les paroles de Donald Trump. Sinon, il y a une vidéo qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a un arbitre qui a été agressé par un parent après un match de hockey junior disputé samedi à Lac-Etchemin. On peut voir les arbitres quitter la patinoire avant qu'un homme pousse assez violemment l'un d'eux. Il y a une altercation avec les deux autres arbitres qui s'en est suivie. L'homme de 39 ans qui a attaqué les arbitres a par la suite été arrêté pour voie de fait avant d'être libéré sous promesse de comparaître. La victime a subi une blessure à l'épaule. Et il y a Radio-Canada qui racontait qu'il y avait une présence policière qui avait été demandée pour le match de samedi à titre préventif parce que la bière avait été lancée et il y avait eu du coltaillage entre joueurs aussi la veille lors d'un autre match qui opposait les deux équipes. Sinon, ben on va en parler. Mais effectivement, Bruno Marchand qualifie Sylvain Junot d'apôtre de l'inertie. La tension est forte entre le maire de Québec et son homologue, le maire de Saint-Augustin. Le maire de Saint-Augustin a émis des critiques quant à son projet de tramway dans une lettre ouverte dans les médias. Et ce matin, même s'il était en déplacement vers l'Alberta, Bruno Marchand a répliqué en disant, ben il veut juste brimer et certainement couler le projet de tramway, mais il n'est pas le premier.
418-971-1021 pour réagir justement à cette conversation qu'on a à l'instant même avec Sylvain Junot, maire de Saint-Augustin-de-Desmaures. Monsieur Junot, comment allez-vous?
Très bien, merci. Et vous?
Ça va très bien également. Monsieur Junot, le maire Marchand, il ne va pas par le dos de la cuillère. Il vous traite de maire, de l'immobiliste, d'apôtre de l'inertie. Tout ça parce que vous avez écrit aux médias en disant « Ouais, il faudrait peut-être attendre que le financement du tramway soit sûr à 100% avant de couper 1500 arbres. »
Oui, écoutez, moi, je vais... La petite phrase vient pas de moi, là, mais il faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. La séquence des décisions dans un projet d'un projet comme ça, un projet d'ingénierie, la gestion de projet est très claire, là, les pratiques, la base. Donc, je veux juste d'entrée de jeu là, mettre quelque chose au clair. Puis c'est écrit dans mon envoi. La ville de Saint-Augustin-des-Morts et son maire là, sont en faveur du projet structurant de transport en commun. On est favorable, on veut. Ça, c'est, j'espère que c'est clair. Là. Maintenant qu'on a dit ça, ben tout grand projet de cette envergure, on parle quand même de plusieurs milliards, là, doit suivre les règles de l'art. Dans les règles de l'art, ben Les gestes irréversibles, ben, on les pose pas au début, on les pose quand on est sûr d'avoir tout bien attaché. Et dans ce cas-ci, ben, le financement, à moins que quelqu'un me sorte des documents, là, j'ai pas d'assurance de grand-chose. On a une espèce d'esquisse, mais un montant de 7 point quelques milliards qui date de, un estimé qui date d'il y a 2 ans, un gouvernement fédéral qui parlait de 1,4 milliard, qui représente donc pas 40 %, pas d'engagement à aller plus haut, mais des espèces de peut-être que. Puis c'est un projet dont la gouvernance est fractionnée. Hein, on a la CPDQ-FRA, on a le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, l'agglomération. Fait que, à quelque part, moi je dis juste, on peut-tu juste s'assurer qu'on a l'argent sur la table, puis qu'on a des estimés crédibles, et abattons des armes. Sinon, ben attendons de les abattre, mais ça veut pas dire d'attendre pour avancer le projet, là, juste abattre les arbres. C'est le seul sujet dont je parlais, moi, dans mon écrit. Et si on dit qu'on va remplacer 1500 arbres matures par 20 pour 1, là, donc 30 000 arbres, ben plantons-les tout de suite. Commençons tout de suite. Il n'y a pas d'irrémédiable là-dessus, là, c'est pas irréversible. Plantons 30 000 arbres. Si jamais ça se concrétise, l'argent est là, puis ça se fait, ben tant mieux, ils auront commencé à pousser plus tôt.
Sinon, ben on aura juste 30 000 arbres de plus, puis la ville va juste être plus belle et s'en porter mieux.
Exactement. C'est pas plus simple que, c'est pas plus compliqué que ça. Et on est pour le projet, là. Ça n'a rien à voir. C'est une séquence de gestion. Puis je suis ingénieur, moi, là, puis j'ai des obligations aussi là, de déontologie, à savoir qu'il faut regarder dans un projet l'impact sur l'environnement, l'impact sur l'humain. Donc, abattre 1500 arbres, c'est pas marginal. Là. On parle pas d'en abattre 2-3 pour faire une bretelle de tête.
Non, surtout les arbres sur René Lévesque. Monsieur Junot, par texto, les gens sont très d'accord avec vous à l'heure actuelle, mais je me dois de vous poser quand même cette question-ci. Êtes-vous en guerre avec Bruno Marchand pour écrire cette lettre-là?
Non, du tout. Là. Moi, dans 30 ans, là, imaginons que les choses vont bien, ben tant mieux. On n'en parlera pas, ça va être réglé. Mais si les choses vont mal, financièrement, environnementalement, nommez-le, là. Qu'est-ce que les gens vont se dire? Puis dans 30 ans, je vous annonce, je vais être mort.
Hein? Bon. Mais là, vous, c'est en tant que maire de l'agglomération de Québec que vous prenez la parole, parce que si je me permets d'interpréter vos dires, dans le fond, vous dites « Hey, moi, je peux pas laisser passer ça, parce que si je laisse passer ça, ça veut dire que je vais avoir dire oui. »
Ben, c'est ça. Je veux pas que dans 30 ans, on se dise, qui a laissé, si jamais ça va mal, qui a laissé ça aller de même, là, c'est les gens, là, les gens de l'agglo, là, puis bon, j'en fais partie. Il y avait même un ingénieur, là-dedans, là. Ben, c'est ça. Fait que là, moi, je dis juste, attendons avant d'abattre que le projet soit bien ficelé. Il y a une part majeure du financement qui vient du provincial, lequel sera en élection dans 6 mois, puis dans l'intervalle, on va changer de premier ministre. On peut juste attendre, voir qu'est-ce qui va arriver avec le financement. Carney nous a dit qu'il donnerait 1,4. Ça représente pas 40 % non plus. CPDQ-FRA va mettre combien? On parlait de 20-30 % mais 20-30 % de combien? Est-ce que 7,6 milliards, c'est le bon chiffre? Il date déjà d'il y a 2 ans. Je suis pas en train de dire, arrêtons, faisons plus rien. Loin de là. Ce que je dis, c'est la séquence des décisions doit suivre un processus, les bonnes pratiques. Et l'ingénieur que je suis ne peut pas rester silencieux devant ça. Mais on est pour le projet.
Pour rappel, on parle avec Sylvain Junot, maire de Saint-Augustin de Desmaures. Il a écrit une lettre hier aux médias mentionnant qu'on ne devait pas couper les arbres immédiatement dans le projet du tramway. Et la réponse de Bruno Marchand aujourd'hui a été de le traiter d'apôtre de l'inertie. Monsieur Junot, je veux vous faire entendre Guillaume Tremblay, président de l'UMQ, par rapport à la taxe sur les vidanges. Pour Guillaume Tremblay, président de l'Union des municipalités du Québec, c'est oui ou c'est non la taxe en surplus selon le poids de nos vidanges?
Bien, moi, je vous dirais, sans rentrer dans les détails, dans les chicanes de votre milieu, moi, ce que j'ai le goût de vous dire, il y a une réalité, par exemple, là, qui est démontrée de part et d'autre quand vous vous trouvez d'un côté ou de l'autre de cette prise de position-là, c'est que le monde municipal, on est vraiment dans un cul-de-sac présentement au niveau financier. Ben, c'est pas pour rien qu'on ait mis de l'avant un chantier sur la fiscalité municipale. On est allé chercher 2 sommités, Monique Jérôme Forget, Nicolas Marceau. Puis l'objectif, c'est justement de revoir un peu toute cette fiscalité municipale-là, parce que présentement, le monde municipal, les surplus, je veux dire, ça n'existe plus, les surplus pour le monde municipal.
Deux choses là-dedans, M. Junot. Premièrement, il n'y a pas juste moi qui vois la guerre. Il vous trouve en chicane avec Bruno Marchand, votre président de l'UMQ.
Je sais pas, il n'a pas parlé de moi, mais je comprends que c'est ce qui est probablement ce que vous aviez discuté avant l'extrait que vous m'avez fait entendre. Mais bon, moi, j'ai pas de guerre, là. J'ai pas de guerre. Moi, je fais juste gouverner ma ville puis dire, écoutez, moi, quand on me parle de nouvelles sources de revenus municipales, je pense aux citoyens. Puis le citoyen, il est...
Oui, mais c'est ça, M. Junot. Êtes-vous
le... Il est aussi un citoyen québécois puis canadien. Fait que la nouvelle source de revenus, toujours lui.
C'est ça. Êtes-vous le seul à penser pour le citoyen? Parce que quand le président de l'UMQ me dit « Ouais, on va regarder ça, la taxe au poids des vidanges », j'ai l'impression que des maires comme Bruno Marchand qui veulent juste venir nous en chercher plus dans les poches vont être légitimes de le faire. Ça me fait peur. Ça fait peur à nos auditeurs.
Bien, il y a des enjeux aussi environnementaux là-dedans. Si vous taxez au poids puis au volume que vous ramassez, la nature humaine étant ce qu'elle est, il va y avoir des dépôts sauvages dans le fond du troisième rang, des feux de vidange en cours arrière. Il va y avoir sacré ça dans le canal, sacré ça dans le récu et n'importe quoi d'autre. Pas tout le monde, mais il va en avoir. On veut pas ça, là. Ça fait des années qu'on travaille à essayer d'instaurer des systèmes intelligents où on va récupérer, diminuer, etc., etc. Là, on arrive avec une espèce de projet de taxe, j'ai quasiment envie de la dire punitive, là. Puis à quelque part, on pénalise qui? Exemple, là, on pénalise Claudette et Roger qui ont 3 enfants avec des couches, puis les poubelles sont pleines. Et, il me semble que...
Oui, non, vous avez raison. Sylvain Junot, c'est toujours un plaisir de vous parler. Vous êtes maire de Saint-Augustin-de-Desmaures. Continuez à livrer la bataille pour les citoyens. Puis il y a un auditeur par texto qui me dit « Avez-vous payé votre cotisation à l'Ordre des ingénieurs? » Parce que sa maman a eu des problèmes avec ça.
Elle est payée.
Excellent.
Puis vous pouvez aller voir sur le tableau de l'Ordre, c'est écrit que je suis en règle.
Félicitations pour votre rigueur, M. Junot. Un plaisir de se reparler.
Salut,
Sylvain Junot, maire de Saint-Augustin-de-Desmaures. Bon, Pascal, il dit qu'il n'est pas en guerre avec le maire Bruno Marchand, mais le feu est pogné par à peu près, là.
Ben oui, je veux dire, la tension à 100 est tangible. Là. Honnêtement, on était dans le malaise ce matin quand on a entendu Bruno Marchand parler de ça. Peut-être que c'est pour ça qu'il a mis un peu plus de gants blancs là, cet après-midi, le maire de Saint-Augustin-des-Maures.
Non, il ne veut pas trop rentrer dans ce conflit-là de personnalité. Après la pause, Pascal, tu nous parles du détroit d'Ormuz qui est complètement bloqué. Tu as parlé avec une compagnie d'ici.
Oui, la compagnie, en fait, on lui avait déjà parlé dans les dernières semaines. C'est le groupe Dégagné et on a des cargos québécois de l'entreprise Dégagné qui sont pris dans le détroit d'Ormuz, le Rosa A Dégagné et le Miena Dégagné. Il nous avait dit que l'équipage n'était pas à risque nécessairement, parce qu'on avait pris de bonnes décisions pour les sécuriser. Mais on en est où maintenant avec la cargaison? Les navires québécois sont toujours dans le golfe Persique.
Oui, ça fait monter le prix de l'essence, on le rappelle. Au-dessus d'une 1,70 dans la région de Québec, 1,889 le litre à la pompe dans la région de Montréal. Donc, dans un instant, Pascal CV nous présente son dossier dans l'émission d'En jase.
En jase, à Boulevard 102.1, Jeff Fortin et Pascal CV et leurs collaborateurs te racontent l'actualité. Boulevard 102.1.
13h31 exactement, émission d'En jase jusqu'à 14h. Par la suite, c'est le retour de Gravel avec Denis Véro et Audrey. Mathias Turcotte devrait aller faire un tour dans le retour de Gravel avec un scrum, un point de presse improvisé du ministre de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard. Très comique parce qu'il n'a pas répondu aux questions finalement. Donc, ça va être à suivre. Et également, bien, on aura le podcast des grands événements avec Julie Lemieux sur le 400e de Québec à 14h15 enregistré avec Denis Gravel. Pascal, on en parlait... Donald Trump, de son côté, qui vient de faire une conférence de presse, il a dit à ses alliés « Hey, ça fait 40 ans que je vous protège, puis là, j'ai besoin de vous dans le détroit d'Ormuz. Est-ce que vous allez enfin arriver pour venir m'aider? » Parce que il y a des pétroliers qui sont pris là-bas.
Oui, des pétroliers qui sont pris là-bas, mais il y a aussi des navires de cargaison. C'est le cas pour l'entreprise Dégagné. On lui avait parlé, entre autres, à Serge Le Guelec, il y a peut-être une semaine et demie. Il est conseiller principal du président du conseil et chef de la direction du groupe Dégagné. Il y a deux navires québécois qui sont coincés dans le golfe Persique depuis maintenant 2 semaines. Le Rosaire A Dégagné puis le Miena Dégagné. Bon, on voulait un peu comprendre c'est quoi la gestion de ce dossier-là en tant que compagnie quand on pense que c'est juste à l'international et c'est bien faux et ça mine énormément notre économie. On fait attention, j'ai l'impression aussi, dans les commentaires parce qu'on veut s'assurer que ça se passe bien, on veut pas être ciblé, mais on a pris des nouvelles des cargos bloqués avec Serge Le Guelec ce matin.
On est là depuis, ma foi, au moins un bon bon deux semaines là, depuis que c'est commencé. Mais remarquez bien qu'on avait toujours un navire qui était en attente de décharger sa cargaison. C'est le Mireille des Gagnés. Il est sur le point de rentrer au port pour décharger sa cargaison en Arabie Saoudite. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est la température qui collabore pas.
Hey Pascal, pour réussir à gérer cette situation-là à distance dans un temps de guerre, il doit falloir être branché. Comment qu'on va chercher ces informations-là pour savoir quel bon geste poser, dans le fond?
Bien, comme tu vois, là, on a déchargé en Arabie Saoudite. C'était pas du tout là où on devait le faire parce que, ben, à un moment donné, il fallait que ça vienne à terre, cette marchandise-là. Ça demande beaucoup d'agilité. Ça demande d'être extrêmement branché à tout ce qui se passe en tout temps pour prendre les bonnes décisions. Puis encore là, c'est un peu un coup de dé.
En fait, je vous dirais, c'est la fluidité de la situation. Le profil de risque peut changer d'un jour à l'autre, dépendamment de là où on est. Alors, il faut rester très agile et très aux aguets avec les gens de terrain sur ce qui se passe, puis apporter des correctifs au fur et à mesure. Alors, vous avez vu qu'il y a des pays qui ont été attaqués par les autorités iraniennes. Il y a des espaces aériens qui ont été fermés, des espaces maritimes qui ont été fermés. Et ça évolue constamment. Pendant la période. Alors, il faut vraiment rester aux aguets et être capable de réagir rapidement.
Parce que la semaine passée, on disait qu'il y avait des minis qui avaient été installés pour être capables d'aller détruire des gros bateaux, des cargos du côté de l'Iran. Les États-Unis avaient vraiment levé la main pour dire que c'était épouvantable ce qui était en train de se passer là, que ça nous empêchait de faire du commerce. Aujourd'hui, ce matin, en fait, on autorisait à nouveau, du côté des États-Unis, les pétroliers iraniens à transiter par le détroit. On dit « Allez-y, là, vous ne ferez pas attaquer. » C'est un peu ce que Donald Trump avait choisi de mettre en place, mais ça reste que tout le monde est un petit peu sur le qui-vive, puis on ne sait pas trop si on peut faire confiance à notre ennemi là-dedans. Oui, on a le commercial avec des gagnés, puis on en parle en ce moment, mais il faut faire le clin d'œil sur tout ce qui est pétrolier. 20 % de l'approvisionnement pétrole au monde qui passe par là, puis au Québec, c'est 25 % du pétrole qui est importé de l'extérieur du Canada. On s'était fait dire, quand on jasait avec des experts la semaine passée, qu'il n'y avait pas vraiment d'assurance pour les compagnies.
En raison qu'on était en temps de guerre, si je me rappelle bien.
Oui, en zone de conflit. Mais il y aurait des nuances.
Il y a des assurances pour ce genre d'opération-là. Ce sont des primes additionnelles que les armateurs doivent régler. Maintenant, au regard, peu importe qu'il y ait une assurance ou pas, on se met dans les souliers du marin qui est à bord du bateau. Et c'est évident que le profil de risque est plus élevé. Alors, les gens, à raison, sont plus préoccupés de la situation dans laquelle ils sont. Nous, on est en contact permanent avec le capitaine pour parler avec les équipages. On s'assure qu'ils ont tout ce qu'il faut à bord pour être capable de passer à travers cet événement le mieux possible.
Le diplomatique dans tout ça, Pascal, je me souviens, les gens qui étaient coincés disaient « Hey, j'ai pas été capable, moi, de parler avec les gens au Canada, l'ambassade, l'agence frontalière. » C'est la même chose pour eux. Ils ont-tu des difficultés à communiquer avec les gens là-bas?
Ça s'est beaucoup amélioré dans les derniers jours. On a des avancées dans les discussions diplomatiques. Encore ce matin, Donald Trump a décidé de leader un certain discours. Puis pour M. Le Gallet, qui travaille pour les entreprises de gagner, c'est encourageant de voir qu'au moins on en parle.
D'attendre un protocole de sécurité pour être capable de transiter via le détroit d'Ormuz, mais qu'il n'y avait aucune indication à ce moment-là qu'il y avait des arrangements qui étaient pris. Vous avez vu effectivement qu'il semble y avoir des développements. Maintenant, il y a un nombre de parties qui s'y intéressent. On voit bien là, que la mécanique, les choses à mettre en œuvre pour que ça se concrétise, là, ça demeure à définir, mais je pense que le fait que les gens s'en parlent à tout le moins, là, c'est un bon pas dans la bonne direction.
Hey, j'aurais à chien en crime, moi, travailler sur un bateau à l'heure actuelle, pas toi?
Bien, c'est sûr que c'est vraiment loin d'être quelque chose qui ne va pas chercher de l'anxiété ou du stress. Mais pour cette entreprise-là, ils nous avaient très bien dit qu'on les avait fait longer des endroits qui étaient moins à risque, qui étaient plus en eau occidentale. À l'intérieur même des bateaux, c'est super intéressant. Ils sont prêts un peu à tout, hein, à avoir soit plusieurs semaines à être coincés, rarement pour des conflits de cette ampleur-là, peut-être plus pour un bris ou autre. Mais malgré les discussions de ce matin, on reste très sécuritaire.
Pour l'instant, on a tendance à vouloir se tenir sur la partie occidentale du golfe Persique pour éviter de se rapprocher des endroits où c'est peut-être plus actif, non loin du détroit d'Ormuz. Et là, on sera vraiment en mode d'attente pour voir qu'est-ce qui se passe et de voir si les modalités finalement vont être rendues disponibles pour sortir. Mais je pense que c'est un jeu où il va falloir être patient et voir les choses. Malheureusement, il va falloir voir les choses venir.
Bon, on vient de parler d'assurance, de conversation diplomatique, de sécurité.
Mais là, un navire qui est coincé comme ça, ça doit coûter une méchante pelletée d'argent, l'entreprise.
C'est la première chose hein, à laquelle on pense quand on se dit « Oh, c'est bloqué », puis là, on évacue le moment de sécurité. Là. Mais combien d'argent a été perdu? C'est dur à quantifier en ce moment.
Oui, c'est un petit peu trop tôt pour se prononcer, parce que vous comprendrez que on n'est pas en mesure de chiffrer quoi que ce soit pour l'instant, puisqu'on ne sait pas quand on va sortir du détroit d'Ormuz. On ne comprend pas l'impact que ça peut avoir sur l'ensemble de la saison à l'international. Alors, je pense pas que je serai en mesure de vous donner un éclairage ici qui serait approprié.
Si on fait des parallèles avec un autre conflit, celui de l'invasion de la Russie en Ukraine, il y avait eu beaucoup de dommages au niveau de l'inflation alimentaire. Hein. Au niveau mondial, en 2022, il y avait eu le blocage du blé. Tu t'en souviens, on en jasait ensemble avant le show. Et ça avait été très coûteux pour l'industrie alimentaire. Je vais faire des petits parallèles, OK, Jeff?
Hey, faites ça, ça m'intéresse.
2022 en alimentaire, c'était environ 30% du blé, la part du commerce mondial qui était touchée. Là, en énergie, en 2026, c'est 20% du pétrole. On est pas mal dans le même pourcentage.
Oui, c'est ça. On est dans des situations similaires.
La hausse initiale, c'était 40% sur le blé en 2022. Potentiellement, pour l'essence, c'est 30% en plus. Encore dans les mêmes pourcentages. Mm-hmm. Ça avait créé des problématiques, donc sur les prix alimentaires, quand on parlait du blé. Mais pour l'énergie, c'est pire. C'est une inflation qui est généralisée. Donc, autant au niveau commercial, en termes de transport, l'alimentation de vos voitures, mais aussi tout ce qui est transporté par pétrole, donc la nourriture, etc., on en parle, ça a un impact important. Un impact géographique aussi. Avant, surtout les pays importateurs de céréales ont eu en 2022, se refaire. Je pense à Paris, l'emblématique croissant de Paris, l'emblématique croissant de la France. On importait énormément de blé de l'Ukraine. Il a fallu commencer à cultiver. Mais c'est pas demain la veille que t'en as, toi, du croissant à table quand tu commences à cultiver.
Pas demain la veille que t'as du pétrole chez vous aussi à extraire.
Exactement. Et ça, ce sera un impact global sur toutes les économies. Donc, ça va toucher transport maritime, production industrielle, agriculture, donc dans le carburant, dans l'engrais, l'électricité aussi dans certains pays. C'est une inflation énergétique et économique globale potentiellement plus large que l'inflation alimentaire mondiale qu'on avait connue en 2022.
Merci, Pascal. Très intéressant comme dossier. Merci pour le comparatif justement entre le blé et le pétrole. C'est très parlant. Puis on vient de parler d'entrepreneurship. On vient de parler avec un entrepreneur. Ben, tu sais que c'est le podcast Histoire d'entrepreneur ce soir?
Oui.
Avec Joanie Fortin, notre collègue de Weekend Radio. Ça va être disponible sur YouTube et les plateformes de streaming dès le lendemain. Et là, Pascal, c'est une personne que t'aimes beaucoup qui va être interviewée par Joanie.
Dis-moi.
Vanessa Babeau, des Cafés Sabam.
Ah oui, entreprise familiale. Elle a repris l'entreprise des mains de son père, finalement.
Exactement.
Travaille très fort avec son conjoint.
Oui, café boutique emblématique du quartier Limoilou à Québec. Donc, l'entreprise qui a été fondée justement par Stéphane Babeau. Alors, c'est Vanessa qui sera en vedette du podcast Entrepreneur sur les ondes de Boulevard 101. C'est à 19h ce soir. Le podcast est une présentation d'équipe Marc-Antoine Reed, IG, gestion privée du patrimoine, planification financière et fiscale pour entrepreneurs. Votre conseiller vous met-il au cœur de votre plan? Si ce n'est pas le cas, rencontrez-en un qui fera équipe au marcantoinereed.com. Le Canadien de Montréal a perdu deux matchs ce week-end, Pascal, contre les Sharks et les Ducks. Ils sont au plus fort d'une course en série. On en parle dans un instant avec notre chroniqueur sportif Alex Laramin sur les ondes de Boulevard 102.1. L'émission L'Angeance sert à sa fin à 13h46. Vous n'avez pas assez eu du cocktail météo de la semaine dernière? Eh bien, sachez que ce soir, ce sera entre 5 à 10 mm de pluie de prévu. Le maximum est à 5 degrés. Cependant, ça va refroidir à moins 2 demain matin, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir de la neige intermittente avec des vents du sud-ouest de 50 à 80 km/h. Température qui va baisser à moins 7 en après-midi, moins 16 pour la nuit. Donc, prévoyez vos déplacements en conséquence. Ça va être difficile sur la route, encore une fois. Et à plus long terme, c'est moins 6 ensoleillé pour mercredi. Pascal, on a parlé juste en masse de Donald Trump avec ton dossier que tu viens de nous faire sur le détroit d'Ormuz. Également, on en a parlé dans le caucus avec Antonine Iacarini qui se retrouve sur notre page YouTube. Alors, qu'est-ce qu'il y a à suivre d'autre dans l'actualité?
Ben, Bruno Marchand qui qualifie Sylvain Junot d'apôtre de l'inertie. Peut-être que ça, c'est une manchette à ne pas oublier parce que la tension est forte entre le maire de Québec et son homologue, le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures. Vu les critiques que Sylvain Junot a émises dans une lettre ouverte aux médias hier, Et c'était au sujet du fameux projet de tramway. Touche pas au tramway de Bruno Marchand.
Oh que non!
Sinon, il va te le dire. Et c'est un peu ce qui s'est passé. On a eu Sylvain et Genoux en entrevue. On va pouvoir mettre ça sur le site. En fait, il est déjà disponible, ce segment-là, sur le site de blvd.fm dans On en jase. Parlant du projet de tramway, Le Soleil nous apprenait que la Ville de Québec a franchi les caps des 5 millions de dollars de dépenses en publicité et en information pour le projet. Bruno Marchand aussi parler de cette fameuse plainte envers le courtier immobilier Simon Laberge aujourd'hui. Il est toujours en attente d'excuses du courtier immobilier après la publication la semaine dernière d'une vidéo TikTok dans laquelle il critiquait le projet de tramway en utilisant les termes « malade mental ». Garderie de Laval, Pierre-Ny-Saint-Amand est déclaré accusé à haut risque. C'est celui qui a tué deux enfants en fonçant avec un autobus à toute vitesse dans une garderie en 2023. Il a été jugé toujours dangereux par le tribunal. La vidéo circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a un arbitre qui a été agressé par un parent après un match de hockey junior disputé samedi à la Quai de Chemin. On peut voir les arbitres qui quittent la patinoire avant qu'un homme pousse assez violemment l'un d'eux. L'homme de 39 ans qui a attaqué les arbitres a par la suite été arrêté pour voie de fait avant d'être libéré sous promesse de comparaître. Et peut-être un petit clin d'œil au coût de l'essence, ça va avec tout ce dont on a parlé, mais c'est en hausse. On pourrait bientôt toucher le 2 $ le litre d'essence à la pompe à essence.
On se le souhaitera pas, on va souhaiter que les choses se passent bien. En Iran, il y a quelque chose qui s'est mal passé pendant cette fin de semaine au Centre Bell. Le Canadien en a perdu deux.
Vielle, on passe Gauthier, le but! Vielle a pris une chance, passe à l'aveuglette, mais la chose que tu veux pas, c'est laisser Cotter Gauthier tout seul comme ça.
Et non, puis c'est l'erreur que Lane Hudson a fait en fin de match dimanche. Le Canadien qui s'incline contre les Sharks de San Jose 4-2 avec un but dans un filet désert. Et hier, 4-3 contre les Ducks d'Anaheim. Est-ce qu'on doit paniquer à Montréal, monsieur Alex Laramée, chroniqueur sportif pour nous, on en jase?
Je pense pas. Je pense pas que c'est une raison de paniquer. Là, oui, c'est deux mauvais matchs pour le Canadien en fin de semaine, mais ça reste que c'est des équipes de l'Ouest. C'est pas des équipes qu'on va rencontrer en série. Puis moi, je pense que vraiment, cette semaine, c'est vraiment là que ça joue. Le Boston, demain, ça, c'est un match de 4 points. Là. C'est cliché, mais c'est exactement ça. Selon moi, c'est le genre de match que le Canadien va se présenter. Je dis pas qu'ils se sont pas présentés dans les autres matchs, mais selon moi, c'est quand même un peu humain que la motivation soit un petit peu moins là, malgré qu'ils nous avaient déjà battus en Californie. Là, ça aurait été le fun, au moins, de niveler la marque contre ces clubs-là. Mais si on regarde le match d'hier, ça s'est joué... Ça s'est joué pas mal en deuxième période. Là, on a frappé quand même assez rapidement avec plusieurs buts. Puis là, après ça, l'erreur en fin de match qui a coûté, comme tu l'as dit, de Lane Hudson, qui rate son gars, Cotter Gauthier, tout seul dans l'enclave. Ça peut pas arriver. Mais je pense pas qu'il faut paniquer. Là. Je pense que le Canadien est quand même en bonne position. Puis on a une bonne occasion de se replacer cette semaine.
Tu l'as dit, Boston demain au Centre Bell. L'ambiance va être complètement folle. Et jeudi, le Canadien est à Détroit pour bien situer nos auditeurs et auditrices. Le Canadien, 82 points jusqu'à présent au classement. Les Bruins et les Red Wings en ont 80. On parle des trois équipes qui bataillent activement pour les séries avec Columbus à 79 points. Alors, c'est capital pour le Canadien d'aller chercher pratiquement 3 points sur 4, Alex.
Ben oui. Puis on sait que le Canadien, c'est un fan des matchs en prolongation. Fait que d'aller chercher le petit point de plus en prolongation, c'est très, très, très possible. Même samedi prochain contre les Islanders aussi, là, ça va être un match quand même assez important. Mais moi, j'aime le Canadien en ce moment. T'sais, oui, là, on a eu une mauvaise passe, mais ça reste que Fowler fait bien devant le filet. Honnêtement, ça devient une belle option pour Martin Saint-Louis à utiliser, qui est définitivement meilleur que Montembeau. Là. Je pense que Montembeau, on peut oublier ça. Là. Ça va être Dobesh puis Fowler d'ici la fin de l'année, selon moi. Mais non, je pense qu'on est quand même bien positionné. Puis au final, c'est ces matchs de division-là qui vont faire foi de tout puis qui vont nous propulser vers les séries. Mais moi, si j'avais à mettre mon argent ce matin, je mettrais le Canadien en série puis je ne suis pas stressé par tout.
Non, moi aussi, je crois bien que le Canadien va réussir à s'en sortir et faire les séries. Une chose qu'on avait mal évaluée, Alex, moi et toi, vendredi, c'est quand on a dit « Hey, c'est Brendan Gallagher qui doit aller dans les estrades samedi parce que c'est lui présentement qui est le plus lent sur la patinoire. » Hey! L'aspect leadership, on l'avait mal évalué parce que quand Josh Anderson dit « j'ai été secoué par cette décision-là » et Anderson a joué une mauvaise samedi contre les Sharks, c'est la preuve que Gallagher a d'autres utilités que sur la patinoire.
Non, mais je pense que c'est sûr, on le sait que c'est un des leaders de ce club-là. C'est pas lui qui est le capitaine, là, mais c'est un peu lui qui représente l'âme du Canadien. Mais à la fin de la journée, je comprends là, que les gars l'aiment bien et que c'est un vétéran, blablabla. Mais ce qui se passe, c'est ça à glace. Là. Que Gallagher soit pas là, ça n'empêche pas Josh Anderson de patiner, d'aller plaquer dans le coin. S'il est aussi... Et s'il, pour être déstabilisé à moins de nouvelles, ben on va se débarrasser de lui avec. Là. Moi, j'étais totalement d'accord avec la décision de Martin. Non, mais pour vrai, moi, j'étais totalement
j'adore
d'accord.
J'adore ton franc-parler.
Non, mais tu sais, pour vrai, moi, j'étais totalement d'accord. Je pense que n'importe qui, tu sais, on n'est pas Martin Saint-Louis, on n'est pas des membres de Temple de la Renommée, mais on regarde Gallagher, puis il avance pas, ça glace, il apporte rien. Tu sais, en échec avant, il est en retard. Défensivement, c'est correct, il marque pas de but. T'sais, Gallagher n'a jamais eu une shot, là, même quand il marquait 30 buts, c'est les tirs déviés sur lui, puis il se mettait devant le filet. Il n'est plus capable de faire ça. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que parmi les 12 meilleurs attaquants du Canadien, ben, il n'en fait tout simplement plus partie. Là. Pour moi, c'est aussi simple que ça.
Je suis très d'accord avec toi. Et là, sûrement que la blessure à Kirby Dack, cette autre blessure à Kirby Dack, va venir régler le débat.
Ah, yeah, je veux dire une autre affaire. Un autre que je suis plus capable, c'est Kirby Dack. Okay? Yeah, moi, Jeff, j'ai fait mes maths fortes. Okay? Ça ne me sert pas à la radio, mais je m'en suis servi aujourd'hui. Okay?
Vas-y donc.
Kirby Dack, depuis qu'il est avec le Canadien, il a joué 45% des matchs du Canadien.
Non.
Il a raté plus que la moitié des matchs. En moyenne, si on met ses statistiques depuis qu'il est avec le Canadien sur une saison complète, c'est un gars de 41 points par année. Là. Fait qu'on parle d'un gars de troisième trio.
Ah oui.
Il va devenir un RFA, c'est-à-dire il n'est pas agent libre complet, il est avec restriction, mais il va nous coûter minimum 4 millions par année si on veut faire.
T'es aussi bien de le laisser aller gratuit, là.
Ben moi, honnêtement, je suis tanné, c'est la même histoire. Il revient, il fait il a des bons flashs pendant 2-3 matchs, puis ensuite, il prend une mise en échec, il se blesse. L'autre match, il s'est mis à se battre. Pourquoi il décide de se battre, on comprend pas, mais ensuite, il retraite au vestiaire parce qu'il est blessé à la main. Je veux dire, le gars, il est fragile. Je veux dire, à un moment donné, on peut me parler de malchance. Nick Suzuki, il est là depuis le début de sa carrière, il a raté aucun match. C'est-tu de la chance? À un moment donné, je pense qu'il y a un peu de physique là-dedans, puis son corps, c'est tout simplement pas la route. Selon moi, c'est bye-bye, terminé en fin de saison.
Je suis très d'accord avec toi. Je te fais écouter un but de ce week-end, Alex Laramé.
C'est Liberty. Le tir et le but! Quel tir, quel joueur! Macklin Celebrini, de toute beauté.
Hallucinant, Félix.
Wow! C'est incroyable. Il fait tout sur la patinoire.
En 30 secondes, Alex Laramé, est-ce qu'il est déjà rendu le meilleur joueur de la Ligue nationale à 19 ans?
Ben, selon moi, honnêtement, c'est sûr qu'il est top 5. Le top 5, selon moi, c'est indéniable. Pas le meilleur parce que, selon moi, McDavid reste dans une classe à part. Mais pour moi, il y a un argument qu'il y a McDavid, il y a McKinnon, puis c'est lui. Là. Puis même, est-ce qu'il est au niveau de McKinnon, selon moi, c'est débattable. Mais définitivement, ça va être une des stars de la Ligue nationale pendant les prochaines années. Puis on a vu aux Jeux olympiques, on avait les trois générations, Crosby, McDavid. Ben, le prochain, c'est Celebrini. Parlez-moi pas de Bédard, parlez-moi pas de personne d'autre. C'est lui le prochain leader de Team Canada.
En effet, il a vraiment pris l'ascendant sur des joueurs de son âge, notamment Connor Bédard, comme tu as si bien dit. Alex, on se reparle le vendredi à la fin de cette semaine folle du Canadien.
Toujours un plaisir, puis on espère 3 points sur 4.
Excellent. Salut, Alex. Bonne semaine, mon ami. Alex Laramé, journaliste pour le 99.5 Montréal et chroniqueur sportif dans l'émission On en jase. Pascal, c'est déjà tout pour nous aujourd'hui dans cette émission On en jase. On sera de retour demain.
Sans faute, à même heure.
Et voilà le caucus Iacarini qui va prendre place à compter de midi. En attendant, on vous laisse avec le retour de Gravel. On vous le rappelle, 14h15, c'est ce podcast qui sera enregistré en direct sur les ondes de Boulevard 102.1 avec Julie Lemieux. Ça va concerner les fêtes du 400e de Québec. D'ici là, portez-vous bien. On vous souhaite un bel après-midi sur les ondes de Boulevard.